et ça meurt. C'est bon. Celui qui est au bout, c'est l'autre qui est
Bien, il est bientôt 17h45. On va garder notre quart d'heure académique avant de commencer réellement le travail de ce soir.
On va se faire attraper.
Mais nous allons profiter de ce quart d'heure académique pour donner quelques informations sur la suite des événements. Bon, d'abord, puisque nous reprenons la saison 2018-2019, il faut une fois de plus remercier l'Université Paris-Sorbonne qui nous prête gentiment cet amphithéâtre le jeudi soir, le jeudi en fin d'après-midi. Comme le président de Sorbonne Université habite à côté, j'espère qu'il entend. Voilà, ça lui évitera d'écrire un courrier. Alors, deuxième chose, puisqu'il y avait eu quand même un certain nombre d'inquiétudes après le décès de Jean Salem, qui dirigeait le séminaire Marx 21e siècle, l'esprit et la lettre. La bonne nouvelle, c'est que le séminaire Marx au 21e siècle reprend. Vous avez peut-être reçu d'ailleurs, je pense, certains d'entre vous, déjà des informations. Alors, il reprend ses séances, mais dans un cadre un petit peu différent. Autrefois, c'était le samedi après-midi, ceux qui allaient vous rappeler. Le séminaire reprend dans le cadre des activités de l'équipe phare, qui est une équipe de recherche, philosophie, histoire et analyse des représentations économiques de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pour 2018-2019, comme nous, ils vont commencer, les séances se tiendront, comme l'an passé, dans l'amphithéâtre Lefebvre de la Sorbonne, et ce sera un mercredi par mois, de 17h à 19h. Alors, je n'ai pas le programme, puisqu'en principe il sera communiqué bientôt, mais nous avons deux gentils organisateurs, le Marx 21e siècle ici, Émeric Monville et Luigi qui est là. S'ils ont des choses nouvelles par rapport aux informations que j'avais, ils pourront évidemment vous les communiquer. Donc, vous aurez rapidement, je suppose, le programme complet. La séance d'ouverture aura lieu le mercredi 26 septembre de 17h à 19h et sera animée par Rémi Herrera, qui est chargé de recherche au CNRS, au Centre d'économie de la Sorbonne, sur le thème Marx face au colonialisme. Bien, alors, en ce qui concerne le cercle universitaire d'études marxistes, j'ai eu Rémi récemment. Bon, nous allons continuer notre collaboration et notre entraide, nous continuerons, comme nous l'avons fait précédemment avec Jean, à soutenir le séminaire Marx au 21e siècle, et ça figurera sur les invitations. Et d'autre part, évidemment, nous ferons le nécessaire pour informer tous ceux dont nous avons les noms, les adresses et qui viennent à nos conférences. Donc voilà, on va continuer cette collaboration. Alors, je ne sais pas encore si on ira un peu plus loin, mais bon, pour le moment, en tous les cas, on continue comme pour l'an passé. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations, Luigi. Oui, mais on va le faire, mais sur ça.
Non.
Non.
Bon. La suite continue.
Donc, d'accord. Donc, voilà, vous êtes donc tous informés. Demain, vous recevrez donc l'invitation pour le 26 septembre. Et je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu, donc de la part de Rémi. Deuxième chose, bon, il n'y a pas un ordre farouche là-dedans. Nous avons, vous savez, à plusieurs reprises invité, et encore récemment, c'était au mois de juin, notre ami et on peut dire camarade Samir Amine, qui est venu faire des conférences au cercle universitaire d'études marxistes et qui malheureusement est décédé récemment. Et Luigi va vous dire deux mots au sujet de Samy.
C'est vraiment deux mots. Nous commémorons tous ensemble parce qu'il a été un grand ami de notre cercle universitaire dès le départ, donc auteur de la première conférence, absolument. Et il nous a quittés le 12 août dernier, donc à Paris, à l'âge de 86 ans. Vous savez qu'il était né au Caire, il était au PSF en 1947, lors d'études à Paris, qui le conduisent en 1970 à publier sa thèse de doctorat intitulée « L'accumulation du capital à l'échelle mondiale ». Donc c'est une thèse qui ouvre son champ de recherche et son militantisme donc en faveur de ce qu'on appelait tiers-monde, qu'aujourd'hui on appelle aussi altermondialisme. En tout cas, c'est une bataille, un militantisme anti-impérialiste et contre l'eurocentrisme et la domination occidentale. Cela s'est traduit d'un côté par des générations d'étudiants qui ont poursuivi ces recherches, par une production intellectuelle importante dont l'éditeur Delga est en partie le responsable de publication, et aussi par un militantisme actif au sein de plusieurs entités comme le Forum mondial des alternatives, le Forum du tiers-monde, l'Institut africain de développement de planification et d'autres. Militant donc communiste, anti-impérialiste et grand intellectuel, maître donc, comme je dis, de plusieurs générations, nous regrettons donc cette grande perte. J'achèverai donc mon petit discours en rappelant son humour. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui aimait bien rire, qui pimentait d'anecdotes ses discussions, ses récits, et donc je souhaite rester sur cette note, sur son sens de l'humour, sur son sourire et son envie comme ça, d'être dans la vie, dans la bonne humeur.
Ah, le micro, est-ce qu'il fonctionne?
Oui, il faut le...
Pardon, je ne sais pas si je vais parler assez fort.
Non, c'est très peut-être bien. Pas.
Le remède est pire que le mal, donc il s'est passé qu'il devait avoir un autre micro.
Non, il n'y a pas d'autre micro.
Normalement, il y a ces interférences continues. Non, je connais, hélas.
On va essayer de parler plus fort.
Voilà. C'est mieux que d'avoir les acouphènes.
Voilà, alors, donc on va pouvoir tranquillement commencer le travail de ce soir, qui est consacré aux événements de mai-juin 68. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire un résumé de notre jeunesse. Hein. Bon, d'abord parce qu'il y en a qui n'étaient pas nés à cette époque-là, alors donc ils auraient du mal à rappeler, je pense à Emery par exemple et à Luigi peut-être. J'en connais quelques autres qui ont plus que participé à mai 68. Hein. Mm-hmm. Un agitateur ici, là. Voilà. Non, c'est de toi dont je parle.
Un gauchiste.
Tu entends? Non, il n'entend pas bien à l'envers.
Non, c'est... Il vaut mieux que tu parles plus fort.
Bon, est-ce que tu entends?
Alors, est-ce que c'est de toi qu'il s'agit?
Mais c'est...
De Roger Sylvain.
Roger Sylvain.
Moi, c'est à moi que tu parles.
Oui, qui était un dirigeant de la CGT chez Renault. Donc nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous.
C'est vrai que ça devient dur.
Ouais. Bon, mais ça va, tu entends suffisamment là.
Comme toi tu parles, oui.
Bon, on va essayer de maintenir ce... On va essayer de maintenir ce rythme, d'accord. Alors, nous allons intervenir à plusieurs. Hein. Je vais faire une présentation tout petit peu générale qui sera suivie d'une intervention d'Emeric et de Luigi. En principe, notre ami Victor Gisenberg, qui devrait arriver, devrait aussi faire une courte intervention. Et évidemment, nous ouvrirons le débat sur le sujet. Bon, je crois que le mieux, c'est qu'on commence maintenant. Hein, on va... Bon. Ah, encore une petite information, si certains ne sont pas inscrits sur les listes de diffusion, vous pouvez demander à Janine, qui a un petit vêtement bleu là en haut sur la droite, elle vous inscrira avec votre adresse. Donc je vais essayer d'y aller pour Roger avec suffisamment de tenues, hein. D'accord ? Voilà. Alors, il ne s'agit que d'une introduction au débat, hein. Ce n'est pas une conférence sur mai 68. Les puissantes luttes de mai 68 ont incontestablement permis des avancées sociales importantes en matière de salaire, de conditions de travail et de droits syndicaux. Mai 68 se situe à un moment de changement profond dans la société française, dans le développement du capitalisme monopoliste à l'échelle nationale, européenne et mondiale, et conséquemment dans le dispositif des forces politiques et sociales. Il se situe aussi dans une phase particulièrement aiguë de l'affrontement de classes à l'échelle internationale entre l'impérialisme dominé par les USA, le camp socialiste et les forces de libération nationale. La question récurrente qui se pose à propos de mai 68 et à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante. Était-il possible de déboucher sur une issue révolutionnaire à la crise, compte tenu des rapports de force et des stratégies développées par les forces politiques en présence, et en particulier celles du Parti communiste français et de la CGT? Mai 68 n'est pas arrivé au hasard. Il est de bon ton aujourd'hui, dans les médias dominés par le grand capital, de présenter mai 68 seulement comme une révolution des mœurs dans une société figée et traditionnelle qui se serait libérée des carcans du passé. Ce schéma est à mes yeux éminemment réducteur. A contrario de cette façon de voir les choses, l'Institut d'histoire sociale de la CGT, ce sont les cahiers de mai 2018, résume ainsi les causes de ces événements, je le cite. La secousse sociale de mai-juin 68 n'est pas tombée du ciel. Elle prend sa source dans de multiples facteurs économiques, sociaux, sociétaux, culturels, parmi lesquels les luttes sociales et les évolutions syndicales occupent une place très importante. Pour comprendre l'irruption des luttes sociales de masse en mai 68, il convient de rappeler quelques faits. En 58, le coup d'État qui amène De Gaulle au pouvoir en liquidant la 4e République, issue des luttes pour la libération de la France du joug nazi, marque le début d'un développement nouveau du capitalisme monopoliste en France et son intégration plus poussée dans la concurrence mondiale. Les conquêtes sociales de la libération sont un obstacle pour le développement des monopoles à l'échelle mondiale. La guerre en Algérie, menée par la France contre le peuple algérien, se termine en 1962 par l'indépendance de l'Algérie. Ces années de 45 à 75, que certains nomment les Trente Glorieuses, au regard du développement économique du pays, ne sont pas le paysage idyllique que s'emploient à présenter les laudateurs du capitalisme. Si la richesse produite augmente, ce sont surtout les profits capitalistes et non les salariés qui en touchent la plus grande part. Les salaires sont bas et les conditions de vie difficiles. Le manque de logement est criant, rappelons-nous le cri de l'abbé Pierre, et il existe de grands bidonvilles à l'approche périphérie des grandes villes. La sécurité sociale, conquête des luttes de la résistance, est attaquée. Les retraités sont en général pauvres et l'exode rural s'accélère, offrant au patronat une main-d'œuvre à bon marché. L'enseignement supérieur est réservé à une petite minorité issue des classes possédantes. Le coup d'État de 1958 a affaibli le PCF qui s'y est opposé. Toutes les autres forces politiques, y compris le Parti Socialiste SFIO, dont une affiche rappelait « Nous sommes à l'avant-garde de la 5e République », se sont rangés sous la houlette de De Gaulle, à l'exception notable de François Mitterrand, qui y gagnera la figure d'un opposant résolu, lui qui fut un pilier de la politique impérialiste de la France, en particulier en Algérie. Plus que jamais, l'antisoviétisme, l'anticommunisme et l'anticégétisme sont le fonds de commerce nécessaire pour museler les luttes ouvrières et des salariés. Au plan syndical, la CGT est isolée et elle peine à développer les luttes. FO et la CFTC, positionnés sur le terrain de la collaboration de classe, sont des auxiliaires du patronat. Cependant, à partir de 61-62, on assiste à une remontée des luttes menées par la CGT. Ainsi, si en 1965, on compte 979 000 journées perdues entre guillemets pour fait de grève, il y en a 2 500 000 en 66 et 5 millions en 1967. Une des caractéristiques de ces grèves en est leur dureté, occupation d'usines, lock-out patronal et intervention policière. Ces luttes sont parfois longues, comme à Rodiaceta, Berlier, chez les mineurs de fer. La question des salaires, de l'emploi et des conditions de travail sont au cœur des revendications populaires. En 62, le pouvoir gaulliste qui a décrété la réquisition des mineurs en grève générale subit un échec cuisant. Les mineurs ne reprennent pas le travail. Ils sont soutenus par une large fraction de la population et ils contraignent le pouvoir à négocier. Alors, là, je fais un truc un peu spécial. Il y a eu la grève des mineurs de 62, qui était une grève générale dans tous les bassins. Il y a eu la grève des mineurs très célèbre de Decazeville en 1961, qui était le premier bassin qui devait fermer, et où les mineurs ont tenu 3 mois en grève au fond de la mine, pas n'importe où. Alors je dis ça parce que je suis de Decazeville, hein, alors donc voilà, c'est un quart d'heure de Decazevillois. Mais ce sont ces luttes des mineurs de Decazeville qui ont ouvert la perspective d'une lutte des mineurs en 62, justement pour protester contre la politique charbonnière du gouvernement. Donc à partir de 62, on assiste à une remontée des luttes sociales dans tout le pays et dans de nombreuses professions. Contre la guerre du Vietnam, menée par l'impérialisme américain, une partie de la jeunesse se bat. Des forces politiques, seul le PCF se prononce clairement contre cette guerre impérialiste et pour la paix. En 66, c'est le 10 janvier, l'accord d'unité d'action CGT-CFDT, la CFTC était devenue la CFTC, oui, était devenue CFDT entre-temps, va contribuer à modifier les perspectives. Rappelons que la CFTC s'est laïcisée en 1964. Devant le blocage du patronat, face aux revendications des salariés, l'affaiblissement du pouvoir gaulliste, la montée des luttes est perceptible. Dès 1967, de nombreux conflits éclatent chez Rodiaceta à Besançon, au chantier naval à Saint-Nazaire, à Caen dans l'industrie métallurgique et mécanique. Face à un pouvoir gaulliste qui entend légiférer par ordonnance, en particulier contre la sécurité sociale, une manifestation unitaire à laquelle s'est rallié in extremis FO le 17 mai 67 est un succès, mais la riposte se montre insuffisante et la CFDT tergiverse pour mener l'action commune. FO, de son côté, avec la complicité du patronat, dispose des moyens pour exclure la CGT de la gestion de la sécurité sociale à la suite des ordonnances gaullistes. C'est dans ce contexte que l'année 1968 commence. Le 1er mai 68 marque un tournant que le journal Le Monde souligne et décrit ainsi. C'est une citation un peu longue, mais elle vaut quand même son pesant de caramel. La manifestation qui s'est déroulée mercredi 1er mai après-midi à Paris à l'appel de la CGT et du Parti communiste a été de loin la plus importante de celles qui, sur l'ensemble du territoire, ont marqué la fête du travail. Pour la première fois depuis 14 ans, la grande centrale syndicale et le PC ont renoué avec la tradition des manifestations interdites dès 1954 par le gouvernement Laniel. pour des raisons, paraît-il, de sécurité, et avait refusé de se joindre à cette manifestation, les unions syndicales parisiennes CFDT et FO, en estimant qu'une telle manifestation n'entrait pas dans leur coutume. En fait, si l'initiative de la journée revenait officiellement à la CGT, les CDTistes ne voulaient pas se prêter à un mouvement politisé par la présence des communistes. Dès lors, la FGDS, alors pour les plus jeunes, Fédération de la gauche démocrate et socialiste regroupant le Parti socialiste et la Convention des institutions républicaines de Mitterrand, avait également décliné l'invitation. Le PSU, Parti socialiste unifié, pour sa part l'avait accepté, et M. Claude Bourdet prit place sur l'estrade improvisée avec un camion au pied de la colonne de Juillet. Voilà la description que fait Le Monde de la manifestation du 1er 1968. Pour les plus anciens, ça rappelle des choses, mais pour les plus nouveaux, ça peut aussi rappeler des choses. Dans le même temps, le mouvement étudiant prend de l'ampleur. Presque toutes les écoles et universités sont fermées et occupées. Les manifestations étudiantes sont réprimées violemment en prenant prétexte des agissements de groupes provocateurs. Les dirigeants du mouvement étudiant, pour la plupart profondément anti-cégétistes et anti-communistes, à l'image de Cohn-Bendit, qui a troqué les pavés pour le gravillon des allées du pouvoir. Il s'emploie à dévier le mouvement de masse dans des pratiques d'affrontement bien utiles au pouvoir et susceptibles d'alimenter l'exigence d'un changement sans risque pour le capital. Le bouillonnement au bilan est intense et se mêlant aux revendications sociales des exigences de changement de la société. L'actualité montre aussi ce que sont venus tous ces dirigeants du mouvement étudiant, la plupart ayant fini dans les allées du pouvoir. Les occupations d'usines et de services se multiplient et l'on compte au maximum de la lutte près de 10 millions de grévistes, c'est plus qu'en 1936. Le 13 mai, à l'initiative de la CGT, c'est une manifestation de près d'un million de personnes qui se déroule dans le calme à Paris. Mai 68 hante encore les esprits des classes possédantes. Si les hommes politiques du capital ne veulent retenir de mai 68 que le côté sociétal, d'épanouissement de la liberté individuelle rapprochée de la liberté d'entreprendre, chère au patronat laissant de côté les revendications sociales, le titre récent de l'hebdo Valeur Actuelle, que je cite, mai 68, l'héritage maudit, en dit long sur la crainte qu'a fait naître ce mouvement. Dans ce rapport de force inédit, il y avait bien de quoi faire réfléchir le patronat et le gouvernement, tant le mouvement de lutte des travailleurs et de la jeunesse fut intense, massif et porteur d'aspirations à des changements profonds de la société. Les négociations sociales baptisées de Grenelle entre les organisations ouvrières, le patronat et le gouvernement de l'époque ne conduisent pas à un accord. Parce que aujourd'hui tout le monde dit les accords de Grenelle, il n'y a jamais eu d'accord de Grenelle. La CGT ayant refusé de signer, mais à un constat de négociation dont les travailleurs en lutte sont appelés par la CGT à évaluer la portée. Les résultats sont importants, ils montrent que seule la lutte de masse unie et solide des travailleurs peut conduire à des résultats tangibles. Alors je rappelle quelques-uns des résultats. Alors moi j'étais salarié à l'époque, ça a fait un choc, hein. Une augmentation de 35% du salaire minimum interprofessionnel garanti et de 10% en moyenne pour les autres salariés. Reconnaissance du droit syndical à l'entreprise et en particulier de la section syndicale d'entreprise. Patronat et syndicats décident de conclure rapidement un accord sur la durée du travail en vue d'aboutir à la semaine de 40 heures. Les journées de grève seront récupérées et un acompte de 50% sera versé aux salariés ayant subi des retenues de salaire. Moi, j'étais dans un lycée comme enseignant, enfin, maître auxiliaire. Alors, on nous a tout payé, alors, c'était bien, on était augmenté, on n'avait pas travaillé pendant un mois, on était payé, on était assez contents, finalement. Bon, donc, des résultats tangibles, enfin, pour les salariés. Trois jours plus tard, les discussions de Grenelle. De Gaulle, de retour à Paris, après avoir rencontré le général Massieu en Allemagne, et conforté par une énorme manifestation de la droite sur les Champs-Élysées, il décide la dissolution de l'Assemblée nationale et provoque des élections législatives. Dans la foulée, De Gaulle amnistie les putschistes de l'OAS, les généraux Salan, Chan, etc. Le 30 juin 68, le triomphe des gaullistes de l'UDR, Union pour la Défense de la République, qui obtiennent 293 sièges sur 487, met un terme à cette période de lutte sociale, politique intense. La question que l'on doit se poser est donc bien celle du lien entre les luttes sociales et les avancées politiques qu'elles rendent ou non possibles. Pourquoi, alors que la France connaît en 1968 un des plus forts conflits sociaux où participent des millions de salariés, la conclusion politique en est le succès du parti du capital au pouvoir, la défaite électorale de l'opposition de gauche et le recul sensible du Parti communiste français. Si les forces social-démocrates se réorganise autour de la FGDS dans la perspective d'une victoire électorale de François Mitterrand à une prochaine élection présidentielle, il faudra quand même attendre 1981, elle s'emploie à se présenter comme la seule alternative à gauche capable de remplacer le pouvoir gaulliste largement usé par l'exercice du pouvoir. Face à un PCF qui pèse dans la vie politique, ces forces ne lésinent pas sur les discours faisant référence au socialisme, tout en tirant à boulet rouge sur l'URSS. Leur objectif est bien de supplanter le PCF et d'être candidate à la gestion des affaires du grand capital. En mai 68, elles participent à toutes les actions de recomposition à gauche et en particulier au fameux meeting de Charletti, où se retrouvent toutes les forces réformistes, de l'extrême gauche maoïste aux radicaux de gauche, en passant par les autogestionnaires de la CFDT. Pour eux, je les cite, le pouvoir n'est pas à prendre mais à ramasser. De fait, il se désigne comme l'alternative à la gestion des affaires du capital. Le ciment commun de ce rassemblement, c'est l'anticommunisme et l'antiségétisme. Quant au PCF, il s'est donné une stratégie de programme commun avec le Parti socialiste, comme une étape dans le changement de société. Depuis 1962, l'idée d'un rapprochement électoral entre le Parti socialiste et les communistes a fait son chemin. L'initiative d'une union de la gauche définie par un programme commun a été prise à partir de 1964 par la nouvelle direction du PCF animée par Valdecrochet. Ainsi, le Parti communiste se trouve-t-il enfermé dans un piège stratégique terrible qui le conduira à ne pas être en capacité de jouer son rôle de parti révolutionnaire. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et contrairement à ce qu'affirment les partis et mouvements gauchistes, qu'en 1968, la révolution était à portée de main. Ce serait faire fi des conditions objectives du rapport de force au plan national et international. Tout au long de la période qui a précédé 68, comme dans le déroulement des luttes sociales de cette période, la CGT en a été l'acteur syndical majeur. Elle a montré sa capacité à faire vivre la démocratie ouvrière dans un conflit long et complexe. Elle sort grandie de cet événement. Cependant, sa stratégie unitaire avec la CFDT, traduite par l'accord CGT-CFDT, va brouiller les cartes aux yeux de beaucoup de travailleurs et en particulier des jeunes. La direction de la CFDT, pratiquant une surenchère verbale autour du socialisme et de l'autogestion, sans aucun contenu de classe. Comment en effet parler d'autogestion, si ne sont pas remis en cause les fondements mêmes du système d'exploitation capitaliste? C'est sur cette vague, portant une volonté de changement, que les forces social-démocrates, en particulier la FGDS, vont surfer pour détourner le mouvement populaire vers un changement sans risque pour le grand capital. En 2018, dans un contexte certes différent où les luttes se développent, la question politique est elle aussi posée et les enseignements de mai 68 doivent nous être utiles. Comme le disaient Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste en 1848 en parlant des luttes sociales, je les cite, « De temps à autre, les ouvriers triomphent, mais pour un temps seulement. Le véritable résultat de leur lutte n'est pas ce succès immédiat, mais l'union de plus en plus large des travailleurs. » Évidemment, ce que Marx et Engels ont en vue ici, ce n'est pas l'union que dessine le programme commun de gouvernement, mais bien et bien l'union de classe ouvrière, de la classe ouvrière, et ils ajoutent « toute lutte des classes est une lutte politique ». Cette affirmation renvoie à une question fondamentale, celle du parti révolutionnaire de la classe ouvrière, capable de mener la lutte politique contre le capital et la bourgeoisie, pour conduire le peuple à conquérir le pouvoir économique et politique. Sans ce parti et cette orientation, les luttes si nécessaires ne remettent pas en cause le capitalisme lui-même. Certes, la bourgeoisie a bien reçu le message de mai 68. Elle comprend que pour mener à bien les transformations que les monopoles capitalistes exigent pour se placer dans la concurrence mondiale, elle doit liquider les acquis des luttes sociales, privatiser le secteur nationalisé et public, en finir avec les droits qui protègent relativement les travailleurs de la concurrence sur le marché du travail et accélérer l'intégration au sein de la formation impérialiste qu'est la communauté européenne. Chambin Delmas entend rassembler ses forces politiques autour du thème de la nouvelle société. Ainsi, si momentanément le pouvoir reste dans les mains du parti gaulliste, les bases d'une alternance à gauche sans risque pour le capital et permettant de faire accepter aux salariés des changements profonds au bénéfice des monopoles sont-elles posées dans cette période ? Les événements de mai 68 nous rappellent que seuls des mouvements sociaux de grande ampleur sont susceptibles de faire reculer, au moins provisoirement, le patronat et le pouvoir politique à son service. Ce sont bien les luttes que l'on appelle aujourd'hui convergentes, unies et déterminées, de larges fractions du salariat conduites par une organisation syndicale de classe qui sont en mesure d'imposer ces reculs. Il nous indique aussi que sans une bataille de classe politique indiquant le chemin de la prise du pouvoir par la classe ouvrière et les travailleurs, toutes les manœuvres sont possibles pour détourner de cet objectif et imposer une alternance sans risque. Car c'est bien la question du pouvoir politique qui est posée. Seule la prise du pouvoir par la classe ouvrière et ses alliés est de nature à permettre d'abattre le système capitaliste. C'est bien là la question politique majeure et tout cela nous conforte dans l'idée que l'urgence est bien celle-là dans notre pays. Voilà. Alors, c'est mon point de vue. Mais... Alors, on continue là. Ah oui, alors si, quand même, il y avait Victor, tu voulais dire un mot sur les luttes sociales en 68, à partir de...
Oui, bon, je suis arrivé un peu en retard, mais je peux intervenir dans le débat, hein,
c'est comme tu veux maintenant.
Oui, ça se raccroche bien avec ce que tu viens de dire.
Ça se raccroche bien.
Alors, est-ce que tu veux venir ici par exemple?
Allez, viens jusque là.
Je parlais du tout,
mais justement, c'est aujourd'hui.
C'est pour apporter un peu la contradiction alors.
Ouais. Non, mais si je dois rebondir un peu à brûle-pourpoint. Ce qui me frappe, c'est quand même dans la méthode historique l'importance de distinguer entre l'opposition au Parti communiste français et l'anticommunisme. J'ai envie de dire, là, dans ce que j'ai entendu, alors j'ai raté le début de ton exposé, Michel, mais on ne peut pas nier qu'il y a d'autres organisations en France dans l'année 1968 qui se réclament du communisme et de la révolution communiste. Donc ça induit une lecture des événements peut-être un peu différente. Alors moi j'ai un peu profité de l'année écoulée pour me renseigner à partir notamment d'une parution qui me semble importante, qui est celle du livre 1968 de Ludivine Bantini. Je ne sais pas si vous aviez déjà évoqué ce livre-là, mais bon, c'est donc une historienne et militante qui a fait son habilitation à diriger des recherches là-dessus et qui l'a donc publié à l'occasion des commémorations officielles et inofficielles de l'année qui vient de s'écouler. Donc, par rapport à ce que j'ai entendu... il y avait quand même des nuances au moins que je voulais apporter, par exemple sur le rôle du mouvement étudiant il m'a semblé que tu le dépeignais de manière uniquement négative, en disant que c'était tous des anticommunistes. Alors je partage tout à fait tes critiques des trahisons de lâches comme Cohn-Bendit. Enfin, lâche, c'est même pas le bon terme. C'est pas assez fort. Mais bon, que ce soit dans le quartier latin, sur les barricades, on a des étudiants et des travailleurs qui se retrouvent côte à côte. Certes, ça dure quelques heures, mais ça, c'est des convergences réelles. Plus important encore, c'est quand...
Il y a beaucoup de trotskistes sur les barricades.
Oui, oui.
Ils disaient communistes, mais le fond de leur argumentation, c'était l'anti-PCF et l'anti-URSS.
Alors,
je vous propose que Victor termine et on finira les...
Quand les gens se disent communistes, on peut commencer par leur accorder le bénéfice du doute. Enfin, je sais que c'est pas dans la tradition de tout le monde dans cette salle, mais... Ben voilà, donc ils l'ont prouvé sur les barricades, ils l'ont prouvé aussi en organisant par exemple des délégations d'étudiants vers les usines, usines qui parfois, j'ai oublié le nom, mais parfois étaient fermées en fait. Donc les étudiants arrivent devant l'usine, sans doute pour protéger des dégradations, la CGT verrouille l'usine, et donc il y a quelques travailleurs sur les toits qui disent bonjour aux étudiants, mais c'est impossible de fraterniser et de créer des liens au-delà de ça. Donc une autre nuance, mais je pense que là c'était juste par manque de temps peut-être, c'est l'aspect international quand même de l'année 1968.
C'était exprès parce que sinon on est très loin.
Mais c'est quand même intéressant pour nous qui sommes internationalistes de s'en rappeler par exemple.
Alors, c'est ton point de vue ou c'est le point de vue de Bantini là? Parce que tu nous présentes le livre ou tu nous présentes ton point de vue? Non, juste pour savoir.
Mais c'est son point de vue là je pense.
Bah, c'est, disons, librement inspiré de mes lectures.
De Bantini.
Je sais pas.
Non, mais c'est pas pour lui. Non, mais il y avait un ordre du jour qui était de parler du livre de Bantini, donc il n'y a pas de problème.
Moi, j'avais mal compris. J'avais compris que j'intervenais pendant le débat, après.
Non, mais
ensuite,
il y a pas
on me dit de monter
moi,
à la tribune.
Une précision, c'est tout.
Il n'y a pas de problème. Donc tout ça, effectivement, les aspects factuels sont dans le livre de Bantini. Par exemple, sur le fait que les étudiants qui reviennent du congrès Vietnam début 1968 à Berlin en reviennent complètement enthousiastes en disant ouais, « il faut faire la même chose chez nous », etc. Donc il y a comme ça des transferts internationaux. Je ne veux pas abuser du temps de parole. Je sais que les autres intervenants ont... On préparait.
Qu'est-ce que le livre de Bantini apporte à la recherche, puisque tu l'as lu, c'était le but de ton intervention, de ce qu'on avait décidé, c'est qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux recherches précédentes? Ma question est purement objective, il n'y a pas de question piège.
Bah, c'est une excellente question. En fait, c'est un livre qui repose sur un travail d'archives, dans, notamment les archives des régions et des départements. Donc ça permet de décentrer un peu par rapport à une historiographie qui est principalement quand même centraliste et centrée sur Paris. Je pense que c'est une synthèse qui donc montre la diversité du mouvement, qui s'intéresse à la place des femmes, des immigrés, sur la base d'une étude des sources. Ce que ça apporte encore, c'est le fait que de montrer, de démythifier, c'est tout à fait dans la perspective de notre séance, de démythifier en montrant que c'est pas quelques événements en mai 68, mais que ça s'inscrit dans la longue durée, comme l'a montré d'ailleurs Michel aussi.
D'accord.
Bon, tu reviendras après, hein?
Bah oui, volontiers.
Oui, pas de problème pour le débat, mais simplement, là ici, il y avait un livre qu'on présentait, après on fait le débat. Je pense que c'est le plus simple, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont se...
Alors on continue, comment on fait?
Merci.
Oui, je vais prendre la parole. Alors, j'ai essayé non seulement d'écouter, mais de voir si... Parce qu'on entend des bruits de fond. Alors,
je vais essayer.
Voilà, faisons un deuxième essai. Sinon ça... Par contre, on n'entend plus rien. Ah, ça y est, non. On arrête.
C'est pour vérifier.
vérifier que vous êtes toujours vivant.
Bon, deuxième tentative, c'est pas terminé. Donc, on fait à l'ancienne. Oui, donc à présent, donc, nous allons aborder un autre élément de cette séance sur démythifier 68, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes de 68, notamment sociaux, par deux grands intellectuels, l'un italien dont je vais parler tout de suite, Pier Paolo Pasolini.
Sociétaux, je veux dire, excusez-moi.
Oui.
Les phénomènes sociétaux, oui.
Oui, pardon. D'accord, oui. Sociétaux. que tout le monde connaît comme un grand cinéaste, mais bon, voilà, je vais en parler un peu plus diffusément. Et Kluskar, donc Michel Kluskar, dont Emeric va développer la contribution théorique. Je rappelle juste pour faire la transition que la question des étudiants est aussi une question très importante car en 68 comme maintenant, les étudiants, c'est la future classe dirigeante. Alors, c'est sûr que tout pouvoir constitué, notamment répressif, voit d'un très mauvais œil la jonction d'un mouvement étudiant et du mouvement des travailleurs. Donc, c'est sûr que c'est alarme rouge dans les palais du pouvoir. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Et pour faire un raccro avec une actualité pas trop éloignée, mais la contestation au G8 de Gênes, qui a été réprimée dans le sang et dans la violence, a inquiété les pouvoirs italiens en place. Aussi parce qu'il y avait les associations catholiques, les étudiants, beaucoup d'associations internationales et les travailleurs. Donc voilà, cette convergence des luttes, évidemment, c'est vu comme un danger existentiel. Je rappelle aussi, toujours pour faire la transition, que effectivement 68 a peut-être inauguré d'un point de vue politique une longue saison de progestion du pouvoir de centre-gauche qui peut-être s'achève sous nos yeux de nos jours avec l'importance que prend la droite nationaliste et souverainiste, voire néocolonialiste et franchement fasciste, extrême. D'où peut-être aussi les couvertures que tu citais de Valeurs Actuelles. On est peut-être devant des configurations nouvelles et inquiétantes, mais qui sont l'aboutissement de cette gestion des socialistes au service du capital qui ne pouvait qu'amener au désastre social. Donc, Pier Paolo Pasolini a lancé ce concept que nous avons inscrit dans notre titre, la mutation anthropologique, notamment des Italiens. Pour résumer, c'est un grand intellectuel, donc un poète, un cinéaste, qui est né en 1925 et qui a été assassiné en 1975, donc à l'âge de 50 ans. Pour bien m'expliquer sur ce que je vais dire tout à l'heure, je rappellerai qu'il est né en tant qu'homme de lettres et historien de l'art. Chez lui, cette approche du réel en tant qu'historien de l'art prime sur beaucoup de choses. Ça fonde aussi sa vision poétique, sa vision de cinéaste et aussi influe sur sa vision d'intellectuel engagé à partir de sa découverte de Marx dans les années 40. Je rappelle qu'il est dans une famille dont le père est militaire, mais qui a eu un frère qui a activement participé à la résistance dans le nord-est de l'Italie. Il a très vite commencé à analyser l'histoire en termes matérialistes. Il adhère au Parti communiste en étant secrétaire d'une petite section locale dans le Frioul en 1948, mais très vite, dans le contexte italien très dur donc de la campagne de 1948, il est évincé suite à un scandale que le curé a monté contre lui, donc il est exclu du Parti communiste suite à ce scandale qui apparemment a été monté de toutes pièces. il est obligé, donc il perd son travail, il est obligé de se réfugier à Rome, et c'est à Rome qu'il commence son activité dans le monde culturel plus largement. Donc c'est à Rome que sa vie prend, son personnage public prend de l'importance. Pour venir à 1968, passe de Ligny à disons sa place dans notre discussion, car très vite, c'était un 60iste, c'était déjà un romancier, un poète, un intellectuel connu, cinéaste, comme je l'ai déjà dit, reconnu. Il publie à la une du Corriere della Sera un article contre les manifestations d'étudiants, intitulé « Je vous hais, fils de la bourgeoisie ». Donc, la provocation de Le Grand Large, et il explique que, en regardant les chocs entre les étudiants et la police, lui, il était du côté des policiers, parce que les policiers, ce sont des prolétaires, et les étudiants, ce sont des bourgeois. Donc, je simplifie brutalement, mais c'est pour rendre le sens de la provocation qu'il entendait mener. Et il parle très vite d'une merveilleuse révolution qui n'existe pas. Il attaque ceux qui se voulaient les intellectuels de pointe de 68, souvent très jeunes, en leur disant qu'ils étaient des intellectuels à moitié, puisqu'ils ne voyaient qu'un aspect de la culture et pas la culture tout entière. Donc il disait, si vous voulez être intellectuel, il faut l'être jusqu'au bout, il faut l'être entièrement. Et dès lors, il prend une position tout à fait particulière, car il se veut un peu la conscience critique ou le Socrate du mouvement. Alors évidemment, il n'est pas du tout hostile au mouvement et aux jeunes gens en tant que tel, mais il est très vite un critique de cette tournure à la fois culturelle, sociétale et de consommation, enfin néo-capitalisme de la consommation que prend le mouvement, notamment en Italie, mais dans l'Europe entière, on y reviendra tout à l'heure. Il reste communiste tout au long de sa courte vie. Donc avec des idées affichées, revendiquées, pas à demi-mot. Il part, malgré une culture tout à fait internationale, c'est quelqu'un qui a voyagé très vite dans le monde entier, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, mais pour son action de critique, il part toujours de l'Italie, du peuple italien, des gens qui fréquentent, de l'aspect de la société italienne tel qu'il le perçoit et tel qu'il l'analyse à travers des analyses qui sont à la fois politiques, sociales, économiques. C'est à travers cette multiplication d'angles d'approche qu'il arrive à cette idée d'une mutation anthropologique du peuple italien, qu'il appelle aussi l'homologation de peuple italien qui devient comme qui est homologué, c'est-à-dire qui est victime d'une sorte de conformisme lancé par le haut, par les grands médias, par les pouvoirs. Et dans les années qui suivent 68, il approfondit de plus en plus cette critique radicale. Donc je vais maintenant donner quelques aspects, éventuellement pour en revenir dans la discussion. C'est à la fois très riche et parfois exprimé de manière tout à fait radicale et provocatrice. Donc j'essaie de dire les choses de la manière la plus simple possible. Par exemple, pour parler de l'homologation dans la nouvelle génération, il fait un exemple très simple. Il dit, quand j'étais jeune, moi, dit-il, on pouvait distinguer un jeune fasciste d'un jeune communiste rien qu'en le regardant. C'est-à-dire la coupe des cheveux, l'expression, les vêtements qu'il porte, enfin la manière de se présenter déjà, sans besoin qu'il ouvre sa bouche, dénonçait ou déclarait sa sensibilité politique. après les événements, j'ai l'impression, disait-il, que tous les jeunes ressemblent à des voyous. Ils ont tous les mêmes cheveux, ils habillent tous de la même façon, et il est impossible anthropologiquement de distinguer un fasciste, et Dieu sait s'il y en avait en Italie à cette époque, d'un communiste ou d'un... qui se revendique de la gauche extrême. Donc pour lui, ça c'était un élément très évident. Il parle aussi de la détresse des classes populaires. C'était quelqu'un qui les connaissait, les classes populaires, de plusieurs façons. Il avait longtemps habité dans les bidonvilles autour de Rome, de par sa situation économique très précaire, et il, par goût personnel, il fréquentait le peuple de Rome, et puis d'autres villes aussi, mais il était très proche des milieux populaires. On le voit dans ses romans, dans ses films que vous avez peut-être vus, Mamma Roma, etc., Hackathon, etc. Et il dit, voilà encore un autre exemple de cette homologation, pour ne pas trop m'étendre, j'ai vu les frères les plus jeunes de ces gens que je connaissais être totalement névrosés parce qu'ils voulaient rentrer dans les modèles que la télévision leur proposait dès les années 60 d'ailleurs, et ils n'y arrivaient pas. Ils perdaient leur latin au sens de, ils n'avaient plus la capacité créatrice de la langue, notamment du patois romain que Pasolini a magnifié. Et donc il dit, j'ai vu ces jeunes des classes populaires, ces jeunes prolétaires totalement névrosés, perdre leur identité, perdre leur fierté, perdre les cultures particulières, voilà, qui faisaient que chaque quartier, chaque groupe, chaque pâté de maison était un monde avec ses traditions, etc. Bon, j'ai vu, dit-il, tout ce monde d'anciennes aussi solidarité sociale, etc. J'ai vu s'effondrer sous le coup de butoir ou le rouleau compresseur de cette modernité obligatoire, en fait, voilà, imposée d'en haut, qui a pris avec 68 la... dit toujours Pasolini, hein, je rapporte sa pensée, qui a pris l'aspect d'une fausse tolérance, c'est-à-dire d'une tolérance revendiquée, mais en réalité d'une compulsion. Hein, d'une compulsion et d'une obligation d'être. Donc voilà, qu'ils voyaient, ils ont appliqué dans la névrose donc chez les jeunes gens qu'ils rencontraient. Très souvent dans sa vie quotidienne. Et c'est au propos de la destruction de ces cultures particulières, notamment urbaines, qu'il parle aussi de génocide culturel. Donc voilà, quelques concepts qu'il avance, c'est la mutation anthropologique des Italiens, leur homologation et le génocide culturel de la culture populaire locale du peuple italien, comme d'autres peuples, a été maintenu dans une sorte d'ignorance médiévale et barbare dans les siècles. Et donc Pasolini dit à un certain moment, c'est un peuple qui attend encore de devenir chrétien. Sous-entendu, malgré la présence capillaire de l'Église, les forces populaires profondes, paysannes, etc., ont continué une sorte de culture païenne, totalement localisé, totalement à part du monde institutionnel, du monde des retournements politiques, si bien qu'il dit le fascisme, l'expérience des 20 ans de fascisme en Italie, n'a pas...
Ça va bien ? Vous n'êtes pas fait mal ?
c'est le fauteuil qui remonte un peu vite, oui. Donc il disait, le fascisme n'a pas attaqué l'âme du peuple italien en profondeur. Il a un peu glissé dessus. Tandis que ce néofascisme du productivisme post-industriel, etc., a totalement ravagé l'âme des Italiens, parce qu'il dit l'âme, c'est-à-dire l'autoconscience, etc., pour quelques milliers de lire en plus dans leur poche, ils ont vendu leur âme. Donc il a été extrêmement sensible à ce qu'il appelle génocide culturel, et qui, d'après lui, enfin, je crois qu'on est d'accord, a été formidablement accéléré au cours des années 60 et des années 70, dans le contexte évidemment de la guerre froide. Alors je viens à ce dernier point, peut-être en avant, je parlerai peut-être un instant, oui, ça se relie, de sa production cinématographique, parce que ça s'exprime aussi à travers ses films. Notamment les films qui sortent entre les années 60 et les années 70, qu'il appelle la trilogie de la vie. Ce sont des films inspirés des grands ouvrages du passé, le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une Nuits, qui sont une sorte de célébration de la joie de vivre qui existait, d'après lui, avant cette culture mortifère, donc industrielle, etc. Enfin, industrielle, je dis bien capitaliste. Il n'est pas contre l'industrie. C'est pas un obscurantiste, un décroissance, comme parfois on tente de le faire. Hein, il a toujours revendiqué la révolution prolétarienne, les États socialistes, etc. Mais bon, éventuellement on y reviendra, parce que je sais que sa manière de formuler les choses aujourd'hui peut parfois porter à confusion. Donc cette trilogie de la vie, il la regrette après avoir sorti ces très beaux films, parce qu'il dit la culture dominante actuelle, la culture de la publicité, etc., l'a totalement récupérée. Alors l'année de sa mort, il sort un film très lourd, atroce, qui est le film de la mort, qui s'appelle Salaud ou les 120 journées de Sodome. Donc je ne l'ai pas vu. Alors je sais que certains adeptes des films de l'horreur ont abandonné la salle avant la fin du film, parce que c'est apparemment insoutenable. Bon, mais alors c'est intéressant, parce que ce film fait le lien entre la République de Salo, c'est-à-dire la partie républicaine de l'expérience fasciste en lien avec les nazis occupants, pour parler du monde en fait de 1975. Alors il y a une scène, bon, je m'excuse de la citer, mais où on oblige des jeunes gens à manger des excréments. Si l'on pense au problème de la malbouffe de nos jours, c'est-à-dire à toutes les fraudes et ce que l'on mange du matin au soir des produits industriels, on peut imaginer qu'il a voulu, disons, faire une métaphore de ce type de dérive. Contre donc le fascisme, il a toujours été du côté du PCI, encore dans une interview donnée, disons, dans les dernière semaine avant de mourir à la fête de l'UNITA, hein, c'est-à-dire comme la fête de l'humanité de 75, il parlait du PCI, des communistes italiens, comme d'un État propre, d'un État honnête, au sein d'un État plus large qui était corrompu, mafieux et profondément, profondément corrompu. Pour en venir donc au contexte de la guerre froide, donc il s'est exprimé dans un très grand nombre d'articles, donc je ne peux pas résumer, mais je rappelle tout simplement les circonstances de sa mort, car son assassinat a été déguisé en assassinat sexuel, dont l'auteur aurait été un seul jeune homme que Pasolini connaissait, fréquentait, et on a su très longtemps après sa mort, donc le jeune homme qui a été mis en prison, etc., s'est rétracté. Il a expliqué qu'il n'était pas tout seul, qu'il avait menti pour protéger sa famille, etc., et qu'en réalité, il y avait derrière la mafia, les services, enfin, apparemment, c'était beaucoup plus politique qu'on a voulu le présenter. Alors, ce que l'on sait, c'est que Pasolini, dans ces années-là, était en train de mener des recherches sur l'assassinat d'un dirigeant industriel italien, Enrico Mattei, président de l'ENI, c'est-à-dire l'entité des hydrocarbures, donc du pétrole italien, qui, comme vous savez, a initié une politique hostile aux sept sœurs, donc aux américaines, c'est-à-dire aux grands groupes pétroliers américains, une politique de main tendue vers des États producteurs de pétrole, en leur pratiquant en gros des exigences bien moindres que les autres complexes pétroliers impérialistes. Et qui donc a été assassiné en 1962. Donc Pasolini était en train, par ses réseaux, par ses enquêtes, etc., de rouvrir un peu le dossier de cet assassinat qui, bien qu'il soit enfin, non élucidé, mais probablement interne au monde italien, donc probablement Mattei a été assassiné par un autre Italien, c'est évidemment dans le contexte de la guerre froide, des rapports impérialistes des années 60, donc que l'assassinat de Mattei s'est fait. Et les papiers sur lesquels...
Le film de Francesco Rosi.
Voilà, on a eu plusieurs films, des livres, des enquêtes qui ont paru sur ça, tout à fait, absolument. Au moment où Pasolini donc était assassiné, il travaillait à un roman où il parlait d'une manière moitié claire, moitié métaphorique de cet assassinat. Et ce roman n'a été publié qu'en 93, ayant été caché, retardé. Enfin, là aussi, la question n'est pas entièrement éclaircie. Petrolio. Un des papiers du dossier qui constitue ce sorte de roman expérimental, là où il parle plus précisément de l'assassinat, manque. C'est-à-dire que... c'est la note numéro 62B, parce que l'île numérotée et tout. Il y fait référence dans d'autres pages. C'est là à sauter. Enfin, c'est-à-dire que dans l'édition, on n'a pas cette page décisive dans laquelle. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que la critique de Pasolini, c'est pas seulement celle d'un poète sentimental qui regrette le monde perdu. Au contraire, c'était celle d'un militant engagé, d'un grand intellectuel qui a toujours fait le lien entre le contexte international, non seulement de la guerre froide, mais de l'impérialisme au niveau international, les évolutions de la société italienne et les exigences d'une critique mais engagée et y compris de la culture. Je terminerai en rappelant une chose très belle qu'il a écrite en poésie contre les simplifications culturelles et démagogiques de certains 68, c'est-à-dire à l'école, la simplification culturelle, c'est-à-dire le rejet du latin, le rejet de la littérature. Dans ce poème, ce sont des jeunes qui parlent, des gens du peuple, qui disent « Nous ne voulions pas jeter à l'eau l'école bourgeoise, nous voulions la même école, mais du balcon de laquelle puisse se voir le drapeau rouge. » Voilà, donc une appropriation par le peuple de la culture bourgeoise et non pas une mise à mort de cette même culture traditionnelle. C'est sur ce point que je vais achever donc, mon discours. Merci.
Oui, j'ai un peu peur que ma voix ne porte pas, ça passe complètement artificiel, bon, je vais essayer de parler comme ça. Je voulais dire ma joie de revenir ici. Malheureusement, je ne peux pas souvent, pour des raisons d'emploi du temps, assister à cet horaire précis. J'ai toujours soutenu le QM, en tant qu'éditeur, j'ai toujours suivi avec... Attention, on peut témoigner Janine et Michel du fait qu'on en parle souvent de ces réunions. J'ai ça extrêmement à cœur. Je souhaite bonne chance à ce séminaire. Je voulais dire à quel point il est important, y compris par exemple une de ses caractéristiques par rapport à tout ce qui se fait dans Paris. Je sais que c'est intéressant, ce fourmillement marxiste qui revient. Une des caractéristiques essentielles, par exemple, du QM, c'est de faire venir des jeunes doctorants, c'est pas pour faire du jeunisme, hein, c'est simplement pour dire que par rapport à tous ces grands personnages qu'on a évoqués, dont Samir Amin, il faudrait parler de Jean Salem, il faudrait parler de Domenico Sordo, et là récemment le peintre Jean-Pierre Jouffroy, dont j'ai appris le décès récemment, c'est tous des gens que je connaissais puisque j'ai eu l'honneur de les publier. Il y a une génération de gens qui a été très formée et qui s'en va, très formée parce que le contexte politique le voulait. Forcément, on va avoir des moments creux. Et on a un devoir de soutenir ces jeunes de 20 ans. Et voilà, merci de le faire. Je trouve que c'est tout à fait important, même si les recherches ne sont pas forcément abouties. Je parle en tant que quadra, mais moi aussi, je sens qu'en tant que quadra, il faut qu'on tende la main à ces jeunes. Hein, voilà, je trouve ça important. Et alors. Moi, je voulais parler de Michel Kouskar. Vous avez sans doute, parce qu'on se connaît tous, on est un peu dans le milieu militant, vous m'avez sans doute entendu déjà sur ces sujets. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répéter les choses que je dis souvent quand je présente Michel Kouskar. Pourquoi je présente Michel Cousin? Parce que je trouve que je l'ai bien connu à une époque où le pauvre était complètement... Et celui de Pasolini en est mort de ses idées. Michel Cousin, qui était pas loin d'avoir à peu près les mêmes intuitions, et on peut dire est mort de désespoir, hein, d'une certaine solitude. Je l'ai connu dans un... je crois, pour donner une anecdote, c'était le dernier livre de Scand Éditions. Et son livre fait faillite au moment où les éditions sociales, en gros, sont dans la panade. Il arrive à un moment, c'est la métaphore de Hegel, la philosophie vient trop tard, la chouette de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit. Il était confronté à une certaine solitude. Et jusqu'à un moment où on décide de créer une maison d'édition autour de lui qui porte le nom de sa rue. Delga, c'est le nom de la rue où vivait Michel Cousin à Gaillac. Voilà. Et le but au départ, c'était de créer pour publier son œuvre qui était laissée complètement à l'abandon. Et aussi pour des raisons que son éditeur en fait, était en train de s'aborder. Puisque c'est ça qui s'est produit, comme vous le savez. Puisque les éditions sociales qui existent maintenant ont été refondées, hein, vous le savez, et sont indépendantes du Parti communiste français. Et des dirigeants du Parti communiste français, liquidateurs, mutants, révisionnistes, ce que vous voulez, avaient décidé et décrété que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de maisons d'édition, parce qu'ils trouvaient toujours des éditeurs bourgeois pour les publier. Alors évidemment, on peut toujours publier le secrétaire général, comme c'est le cas au Recherche Midi, mais on voit bien le manque par rapport à ce que ça a représenté. Ces éditions sociales. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel je l'ai rencontré. Et voilà les responsabilités écrasantes qui m'incombent, parce que précédemment, je ne prétends pas être un chercheur dans le document. En revanche, je voulais dire, il y a une chose qui m'a beaucoup plu cette année, c'est qu'un jeune homme qui s'appelle Simon Verdun a fait une thèse soutenue à l'ENS, Ulm, pour présentant le néo-kantisme chez Michel Cousin. Et c'est la première fois que Cousin rentre à l'université par la grande porte et est reconnu dans ce qu'il a de méthodologique d'essentiel. Et Simon Verdun a fait un grand travail parce qu'il est allé jusqu'à étayer, avec des citations lourdes, j'allais dire, en faisant tout le dossier, de ce que Cousin appelle le néo-kantisme, qui n'a rien qui a à voir, mais qui excède le néo-kantisme universitaire, les écoles de Bade et de Marbourg. C'est son grand concept dans le Let's Tell Code, thèse qu'on a republié récemment. Ça, c'est un. Cousin est un auteur qui commence à s'imposer. Il s'est imposé parce qu'on l'a promu en librairie. Il s'est imposé pour de mauvaises raisons aussi, parce que c'est un auteur qui est lu partout, mais ça, c'est une bonne chose qu'il soit lu partout. C'est évidemment une mauvaise chose qu'il y ait des tentatives de récupération. Dans toutes les ambiguïtés du discours anti-68art, parce que c'est comme la langue des hommes, ça peut être la pire ou la mauvaise chose, on va en parler, des problèmes du social et du sociétal. Il ne s'agit pas, Cousin n'a jamais voulu opposer le sociétal et le social, disons que dans un milieu communiste marxiste, on sait que les deux fonctionnaient de conserve, le sociétal et le social. Il a toujours critiqué le fait que de nouvelles luttes sociétales seraient censées remplacer la lutte des classes. Ça, il a toujours pensé que c'était la grande manip de 68. C'est pour ça que ce discours, moi je trouve absolument important d'intervenir en dialogue de manière un peu dialectique et pas répéter les choses que je dis souvent pour présenter Cousin. Mais je trouve ça passionnant les discours qu'il y a eu, les deux points de vue et aussi celui du jeune homme, parce que vous avez bien décrit les problématiques et dans toute leur diversité. Michel, si je peux résumer, a montré comment toutes ces luttes sociales convergeaient vers un climax, quoi, enfin un apogée. Ça ne cesse de monter depuis jusqu'en juin 67 et le record de nombre de grèves et des grèves de plus en plus dures. Donc il y a un aspect révolutionnaire comme un train qui va de plus en plus vite. Le problème, c'est qu'il y a un autre train qui arrive, qui est très très différent, c'est ce que Luigi a évoqué, c'est-à-dire une mutation anthropologique, c'est-à-dire une mutation de certaines couches de la société. Et comme l'a dit Michel, c'est en partie ces gens-là qui triomphent. Et je serais un petit peu encore plus dur que Michel, c'est-à-dire que non seulement il a bien décrit le contexte de lutte de classe contre le pouvoir gaulliste, mais il y a une chose où mai 68 et les affreux résultats de mai 68 nous ont presque même fait regretter, nous font aujourd'hui regretter le gaullisme sur un plan, le plan international. C'est-à-dire que le gaullisme est nettement moins pire que l'atlantisme, effréné qui lui a succédé. Je rappelle quand même que De Gaulle était sorti du commandement intégré de l'OTAN, le discours de Phnom Penh, la conversion des dollars nord. Bon, ça, le bilan que faisait Kouskas, 2068, c'est-à-dire c'est un immense contexte révolutionnaire, la plus grande grève de l'histoire de France, et une contre-révolution. Enfin, il y a deux trains qui sont arrivés. Cette contre-révolution, le bilan cru des choses s'énonce de la façon suivante, c'est le recul et la disparition des deux forces de la résistance, que sont le gaullisme et le communisme. Rien que ça. Bon, alors, donc il y a un paradoxe. Et je suis content que Victor soit intervenu, parce que je comprends que ce qu'il gêne, c'est qu'on sépare si brutalement les ouvriers et les étudiants. A priori, il n'y a pas de situation. Il y a des historiens de métier dans cette salle, peut-être qui pourront me donner des contre-exemples. On fera appel à eux. Mais je ne crois pas qu'il y ait de grandes situations révolutionnaires sans qu'il y ait souvent l'union de ces deux couches. Et c'est vrai que... Sauf que alors là, vraiment, en mai 68, disons, ce qu'on met en avant, ce qui est mis en avant souvent par une partie du pouvoir, parce que moi je ne crois pas du tout à une trahison de Cohn-Bendit au libéralisme. Je crois que dès le départ, c'était un anticommuniste. De même que Mitterrand, dès le départ, était anticommuniste pro-européen, pro-américain. Il n'y a pas d'évolution de ces personnes pardon ?
Cagoulard,
voilà, c'est que... En fait, c'est, en politique, il y a très peu... Sur des, comment ça se fait que Mitterrand, beau-frère d'Eugène Deloncle, devient tout petit pseudo-résistant qu'il était, l'interlocuteur principal de De Gaulle, s'il n'avait pas déjà des forces qui l'appuyaient pour le... Voilà. Bon, passons aux questions après, cher Cabrin, mais... je vais essayer d'aller vite. Donc, comment ça se fait qu'on a déjà ces forces qui sont déjà en place. Pourquoi il y a un tel... une telle rupture entre d'un côté le Parti communiste et une partie de cette jeunesse étudiante. Ce que Kouskar a essayé de faire... Kouskar n'a pas vu, comme personne n'a vraiment vu le contexte révolutionnaire, même si d'une certaine manière tout le monde y aspirait, donc c'est pas forcément être grand clair que de prévoir qu'il allait avoir quelque chose, même si ça a surpris quand même beaucoup de gens. Ce qu'il a vu en revanche, il l'a vu très tôt, c'est l'aspect contre-révolutionnaire. Ça, il l'a vu, vous voyez, dès 71-72, c'est le livre qui s'appelle Néofascisme et idéologie du désir. On retrouve le terme de néofasciste proche de Pasolini, où il dit la société qui se met en place. Actuellement, c'est une société libérale-libertaire. Et c'est lui qui forge le terme à ce moment-là. C'est-à-dire l'alliance du libéral et du libertaire. C'est une certaine maestria d'avoir vu ça. D'avoir vu en fait ce qui changeait. Et en marxiste, il analyse en fait un changement dans le mode de production. C'est-à-dire on peut parler de néofascisme, on peut parler aussi de néocapitalisme. Il y a une nouvelle... Et il ramène ça, il fait l'étude des forces en présence. Il dit qu'il y a eu un plan Marshall qui a écoulé un certain nombre de surplus, en Occident. On a créé un poujadisme pied-noir et un poujadisme estudiantin. Il y a trois couches qui commencent à émerger. Il parle de l'émergence, ce qui l'intéresse en tant que sociologue, c'est l'émergence des nouvelles couches moyennes. Nouvelles couches moyennes, ça veut dire que c'est plus la classe moyenne qui possédait ce tout petit moyen de production et d'échange, artisan, commerçant. La France à papa, quoi. C'est plus du tout ça. Ce sont des gens qui sont rentrés dans le salariat. Ils rentrent dans le salariat, mais en même temps, il faut qu'ils se distinguent. Pardon d'employer, j'ai honte d'employer le nom d'un grand rival de Kouskar qui était Bourdieu, hein, mais effectivement, c'est pas honteux quand même d'utiliser ça. Oui, il y a quand même une stratégie de distinction de ces nouvelles couches moyennes qui utilisent le libidénal, le lysique et le marginal. Pour se différencier des autres du reste du salariat. Et ça, ces gens-là vont prendre le pouvoir. Il va définir mai 68 comme le 14 juillet des nouvelles couches moyennes. Effectivement, il le voit, là encore, le fait de devenir François Nobel après... Il n'a pas vu juste en 68, il l'a vu après. Il l'a vu après, mais ça fait 10 ans qu'il travaille à sa thèse qui s'appelle « Lettres et Code ». Qu'on a republié, ça fait 10 ans qu'il travaillait à sa thèse, qui s'appelle Lettres et le Code, et qui est publié récemment. Sous la direction de Lefebvre et Sartre. Alors, là où je veux un petit peu varier de ce que je dis d'habitude quand il me faut présenter Kouskar, Et aussi pour introduire à une communication que je vais faire, pardon pour cette pub personnelle que je vais faire au Falstaff samedi à 17h si vous avez un peu de temps, je vais parler du marxisme et du PCF, de façon dont le marxisme était reçu dans le PCF tel que le... disons entre la période où du congrès de Tours jusqu'à l'abandon du marxisme-léninisme et l'abandon même du marxisme comme référence à la mutation. Comment ça se fait que Kouskar voit ça et que d'autres n'ont pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux communistes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suffisamment été... Kouskar a passé son temps à essayer d'alerter. À alerter le PCF de faire attention à ce qui se mettait en place. Et il y a un texte qu'on a republié en annexe d'une lettre ouverte aux communistes qui est parue posthume, hein, on vous dit, le PCF est la contre-révolution libérale-libertaire. Il a toujours été compagnon de route du PCF, parce que par fidélité ouvrière, hein, c'est pas de Casseville, mais c'est Carnon, c'est pas loin de chez toi, Michel. Et tout ce que espérait sa mère, c'est qu'il devint employé de la mine, et pas seulement au fond de la mine. Et donc, effectivement, il voulait absolument que le PCF prît conscience de ces dangers qui pesaient, y compris même dans l'alliance avec la social-démocratie, et dont tu as montré à quel point ce partenariat était dangereux. Et mais qu'est-ce qui se passe en fait depuis au moins l'après-guerre dans les milieux intellectuels? Alors j'ai honte de ne parler que des milieux intellectuels pour présenter 1968, d'autant plus que les acteurs essentiels, c'était la classe ouvrière, c'était la CGT, Roger Stivin qui est là, j'aimerais bien aussi qu'il intervienne. Mais au moins je vais donner ma version sur le logiciel marxiste. Bon, je trouve que c'est un sujet intéressant. De quel logiciel marxiste le PCF disposait pour comprendre ce qui se passait? Voilà. Contrairement à une idée reçue, le Parti communiste, le marxiste-léniniste dans le Parti communiste n'est pas simplement la position d'une vulgate avec un certain nombre de textes canoniques, même si c'est en partie ça, et même si c'est en partie tout à fait louable, parce que c'est ce qui a permis à des millions de personnes dans le monde entier d'accéder au marxisme. Et comme toute forme de vulgate, il y a des choses qui sont évidemment critiquables. Le Parti communiste français, c'était le cercle de la Russie neuve, c'est-à-dire tout ce qui va évoluer sur tout ce qui va déboucher sur la création de la revue La Pensée. C'était pendant au moins de 1920 à 1939 un fourmillement intellectuel, des adresses en direction du monde universitaire, du monde scientifique, absolument impressionnantes. Et beaucoup de gens qui vont fonder La Pensée vont mourir les armes à la main en défendant la France contre le fascisme. De suite à la guerre, à la victoire, à une certaine euphorie liée à la victoire, à une certaine confiance en soi, et en même temps un caractère un petit peu obsidional de la guerre froide, dont je pense à Daniela Croiris qui, dans le livre Les guerres de Staline, nuançait les propos de l'auteur en disant que précisément, non, tout l'aspect guerre froide n'est absolument pas une guerre de Staline, c'est une guerre qu'on impose à Staline, enfin qu'on impose à l'URSS. C'est-à-dire que vraiment, elle reprenait les travaux de William Appleman Williams. L'URSS était épuisée au sortir de la guerre et encerclée de toutes parts. Bon, je vais vite sur ce contexte, simplement pour dire que bon, ça explique en partie ce qu'on a appelé le jeunovisme, c'est-à-dire un raidissement, certaines outrances du lysenkisme. Je fais cette nuance, pourquoi? Parce que j'ai dit certaines outrances du lysenkisme, sans vouloir condamner totalement le lysenkisme. Pourquoi? Parce que récemment, un chercheur, un engagé de biologie qui s'appelle Guillaume Suin, a montré que des recherches en épigénétique donnaient un certain critère de validité à l'hérédité des caractères acquis. Je pense même qu'il y a des chercheurs, j'allais dire bourgeois, enfin en tout cas qui n'ont rien de communiste, comme Kupiak et Sonigo, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Ni Dieu ni gène », enfin en tout cas le tout génétique tel que le prenaient les Américains et qui débouchait sur des aberrations qui valaient elles aussi leur pesant d'or, du genre les banques de sperme de prix Nobel, puisque tout serait dans les gènes. Ça existait aussi du côté impérialiste, hein, les aberrations en biologie. Bon, il montre même dans son livre, Guillaume Soin, que Staline lui-même avait condamné la thèse, il cite Denis Sustopal, par exemple, quand on oppose science prolétarienne et science bourgeoise, Staline disait que c'était une erreur. Il y a des textes de Staline qui le prouvent. Bon, tout ça pour mais bon, en tout cas, ça a existé, hein, les aberrations des Papi Cinco et le fait que les problèmes de science bourgeoise, science prolétarienne. S'ajoute à cela le rapport Khrouchtchev, c'est-à-dire un rapport, le fait, excusez-moi, je donne un point de vue personnel, il fallait en finir avec une certaine période de culte de la personnalité qui s'explique par la guerre, qui s'explique par la militarisation du pays, et en même temps la manière dont ça a été fait, c'est absolument pas marxiste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en fait, on remplace en fait le culte de la personnalité par le bouc émissaire, y compris jusqu'à dire des aberrations du genre Staline menait le conflit mondial à l'aide d'une Mac Monde, ce qui est aberrant quand on compare avec les témoignages, par exemple, de l'ambassadeur américain qui montrait qu'il connaissait jusqu'au nombre de boulons de char. Voilà. Ça, c'est. Donc, il y avait les cinq mots. Là-dessus arrive, on est en 56, on est quand même 12 ans avant 68, c'est pas là, arrive le rapport Khrouchtchev. Comment réagissent les milieux intellectuels dans le TCF? Alors, le plus représentatif, c'est Garaudy. Garaudy qui sera exclu en 70. Et ce qu'il fait Garaudy, il se dit, bon, ben, on change de braquet, il y a la publication des manuscrits de 44, qui date en fait des années 30, mais on commence vraiment à le lire, d'autant plus que les milieux chrétiens sont en pleine mutation, c'est l'aggiornamento de Vatican II, on commence à revenir à ces textes, on redécouvre ces textes de Jeunesse de Marx qui avaient été méprisés, je dis vraiment méprisés parce que la social-démocratie allemande les possédait, les avait par exemple dans ses archives pendant toutes ces années, hein, là où elle était florissante, et ça m'est intéressé par scène parce qu'à l'époque on recevait le marxisme comme un texte scientiste sur l'évolution du capital, on ne s'intéresse absolument pas de savoir ce qu'était la philosophie de Marx, donc on plaquait c'est Lucas qui dit, hein, je m'abrite derrière son autorité, on plaquait certaines analyses du capital à partir d'une philosophie d'apport qui n'avait rien à voir avec le marxisme, soit le positivisme, soit le néocantisme, dans le cas de Plekhanov, le spinozisme. Bon, donc on redécouvre la richesse des manuscrits de 44, le rapport avec Hegel, et vous avez toute une série de jésuites aussi qui étudient ces textes. Sauf que Garaudy, donc, en magnifiant ces textes, oublie quand même une chose, c'est qu'il s'est passé un certain nombre de choses après, et que Marx a quitté cet humanisme spéculatif. Et Garaudy espère, en fait, déstaliniser, si on veut dire, enfin en tout cas rentrer dans ce mouvement en prenant un humaniste qui se rapproche très étrangement en fait de la conception chrétienne. Donc ça crée une véritable crise puisque c'est le penseur quasiment officiel du PC, c'est le seul philosophe qui est au bureau politique avant Guibès. Le fait qu'il ait réussi à passer à l'université a suscité des titres dans l'humanité puisqu'il y avait le PCF était quand même beaucoup plus ostracisé. Donc tout le débat des années 60 ça va être l'humanisme théorique. Voilà, l'humanisme et le fameux anti-humanisme théorique d'Althusser. Je commence par Althusser, il faudrait commencer par Lucien Sèvres, je vais vous expliquer pourquoi, parce chronologiquement c'est Lucien Sèvres. Bon, à partir de Althusser, les textes de Pour Marx et Lire le Capital, on a la caricature inverse, c'est-à-dire le marxisme est un anti-humanisme théorique. À partir de 45-46, vous avez une coupure épistémologique telle qu'il emprunte à Bachelard. Et on est en plein dans l'époque structuraliste. Après la guerre d'Algérie et l'existentialisme, qui est marqué quand même par la notion d'engagement, qu'on le veuille ou non, mais, et qui le PCF y réagissait aussi par des réflexions sur l'humanisme, c'était une manière de rentrer un peu dans l'époque. Après la guerre d'Algérie où les jeux sont faits, Althusser vous dit il n'y a plus d'histoire, l'histoire ça ne passe pas, l'important c'est qu'on se replie sur la théorie. Et comme par hasard, il prend l'idéologie à la mode, qui est le structuralisme, une idéologie justement dont le gros défaut est de ne pas montrer les évolutions historiques. Avec des surenchères du genre le sujet sans procès. Foucault va même parler de la mort de l'homme. Pendant le procès sans sujet, parce que vous savez, il y a le jeu de mots sur Althusser, ce sujet sans procès. Voilà. Donc le procès sans sujet, merci. Donc la mort de l'homme, et donc ce fameux anti-humanisme théorique. On est quand même englué, c'est-à-dire, concrètement, là, on le voit à la jeunesse hein, du communiste de l'époque, qui est en fait prise entre deux tendances, c'est-à-dire les Italiens, et le PC italien tendait quand même vers un certain compromission avec la société possible. Le problème du PC italien, c'est qu'il a assumé le rôle du PS, en fait. D'ailleurs, il a à tel point qu'on se demandait si c'était pas le PS, et ce qui explique qu'il soit abordé quand même. C'est un peu le débat. Mais oui, c'est un accord italien. italianophiles et les pro-chinois à la TUCER. Voilà à peu près. Donc, quelqu'un comme Lucien Sèvres, qui vient de publier sa correspondance avec Althusser, c'est absolument passionnant, parce qu'on découvre énormément de choses qui se sont passées durant cette époque, aboutit, après 10 ans de recherche, on est en 69, Marxisme et théorie de la personnalité, où il forge le concept d'excentration de l'essence humaine. Alors j'allais dire, je plaisante en disant c'est la montagne une couche d'une souris. Non, pour moi c'est très important. Le concept d'excentration de l'essence humaine sauve l'humanisme marxiste parce qu'il le remet justement dans l'ensemble des rapports sociaux. Il sauve la capacité justement du marxisme à être une vision du monde, à être une philosophie propre qui n'a rien à voir avec la vision théologique de l'Église et qui en même temps n'emprunte pas, ne soit pas du pur structuralisme. Comme l'époque. C'était un véritable acquis de la réflexion philosophique. Tout le débat des années 60 dans le PCF, fondamentalement, tourne autour de ces questions. Parce qu'en fait, on veut répondre à une crise qui est la crise du dogmatisme imposée par l'après-guerre. Et comment ? Mais est-ce qu'il existe malgré tout ? Parce que répondre au dogmatisme par le relativisme n'est pas une solution. Est-ce qu'il existe toujours une philosophie marxiste ? Voilà. Donc ces gens-là sont. C'était très important, et c'est ce à quoi on aboutit. Entre temps, j'allais dire, personne ne travaillait, ne faisait du marxisme appliqué. Sauf Michel Pousquet. C'est pour ça qu'il revient aujourd'hui, parce que. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, une étude de la société française. Et une étude des psychés. Son concept clé, c'est l'articulation des praxis et des psychés. Et parce que il était sur ses formateurs, ses influences, bien que je vous dis, il avait une forte sympathie pour le PCF, ses influences c'est plutôt Lukács, c'est plus sur Lucien Goldman, Henri Lefebvre, c'est-à-dire des gens qui étudiaient l'engendrement réciproque d'une praxis et d'une psyché. C'est ce que fait Lucien Goldman dans Le Dieu caché. Le Dieu caché, c'est un livre qui a marqué toute une époque, c'est un livre sur les jansénistes, mais il a voulu marxiste. C'est une étude du jansénisme par une méthodologie marxiste. Il va être fasciné par ce modèle-là, et il va avoir la gageure de dire « je vais faire la même chose avec l'histoire de France ». Jusqu'à, le tricot, ça s'arrête avant la Révolution, et après il va continuer dans le livre qui s'appelle « Critique de la libéralisme libertaire de la modernité », enfin le titre antérieur s'appelait « De la modernité, Rousseau ou Sartre ». D'ailleurs, on va mieux dire Sartre ou Rousseau, parce qu'il choisit Rousseau contre Sartre. Mais c'est ce logiciel-là qui va lui permettre de comprendre, en fait, les évolutions, justement, le concept de mandat, le concept de cette petite bourgeoisie intellectuelle, de ces nouvelles couches moyennes. Et c'est pour ça que, ce qui est frappant, finalement, dans ce qu'exprimait Luigi, pourquoi on a choisi Pasolini, c'est outre qu'il est, avec Brecht, un des plus grands artistes communistes. Comment ça se fait que c'est un poète qui a compris ce que les intellectuels ne comprenaient pas ? Pourquoi il l'a compris ? Parce qu'il, avec sa sensibilité, son regard. La force de Michel Pousquet, et pardon, j'ai été inutilement polémique avec Lucien Sèvres, autant je vous dise que l'excentration de l'essence, et tout ça, ce sont la défense de la dialectique de Lucien Sèvres, je trouve ça très important, je ne suis pas d'accord, enfin, je ne suis pas convaincu par ce qu'il dit sur la destruction de la forme partie, mais je pense que ce sont des grands philosophes de métier, et même bon, bah, les errements de Garaudy de l'époque et les réponses d'Althusser font partie du débat intellectuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'ont pas fait de marxisme appliqué ? Il y a un problème de regard. Moi, ce qui me frappe chez Michel Pousquet, ça, c'est sa force, et c'est pour ça qu'il s'impose maintenant comme auteur, c'est parce qu'il a un regard de romancier. Mais il a un regard de romancier qu'il étaye par un savoir marxiste. Il tient ça de quelque part de Breton, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire du roman comme avant, du genre La Marquise sortie à 5 heures. Les péripéties n'intéressent pas, mais ce qui l'intéresse, c'est l'aspect vraiment romanesque des choses. C'est pour ça que on peut le qualifier de Balzac de ce néo-capitalisme. Et donc, il a vu les choses arriver, il les a vues très vite, parce qu'il avait cette capacité à décrire les phénomènes humains. Alors, on peut appeler ça sociologie. Il a vis-à-vis de la sociologie les préventions qu'a n'importe quel marxiste vis-à-vis de ce type de science dont l'objectif, au moment où elle se crée, hein, avec Auguste Comte, avec précisément comme objectif de mettre le marxisme sur la touche. Mais voilà, je crois que le point commun entre Pasolini et lui, c'est que ce sont des visionnaires. On parlait de vision de... Voilà. Et alors, par contre, l'anecdote, parce que très modestement, je faisais des travaux de secrétariat avec lui, je lui fournissais des matériaux quand il cherchait, à la fin de sa vie. Et je l'avais au téléphone. Et à un moment, il me demande, on parlait de Pasolini. Et c'est quand même bizarre, vous avez quand même des points communs, vous avez vu des choses, tout à fait. Et puis il me dit, ah oui, et puis il y a ce film là, comment il s'appelle, Salaud, alors comment tu écris, Salaud, c'est Bande de Salauds. Donc il n'avait vraiment pas vu, non, moi je suis comme toi, je n'ai pas pu le voir, bon, mais on est beaucoup plus dans ce cas-là, mais voilà, mais ça fait partie, disons, de la culture, peut-être un petit peu plus jeune par rapport à cette culture. Lui, il était très franco-français, mais Pasolini, il l'avait, pardon, il était, donc, bon, mais c'est ça qui est intéressant dans les recherches, quand les gens aboutissent aux mêmes conclusions, l'un plutôt par la fibre poétique, long dérèglement de tous les sens, hein, comme dirait un mot, et l'autre par en fait cette grande culture en fait qui est balzacienne, qui est française, c'est le grand roman. Voilà. Voilà pour vous donner envie de le lire. J'espère que c'était un peu trop long. Et voilà. Merci.
Oui. Nous avons 45 minutes. Hein.
La thèse, c'est l'être et le code.
Mais écris-la, écris-le là-bas,
au tableau. La thèse sur le néo-fascisme.
Ah, néo-fascisme et idéologie du désir.
Oui, c'est là.
En fait. Il est là, en fait, le livre. Ça, c'est son livre de polémique juste après Lettre et le Code.
Ah non, je parle de la thèse.
De Simon Vernin.
Ah, de Simon Vernin. Ah, la thèse, c'est le néocantisme chez Michel Kouska. J'ai peur de me tromper sur le titre. Et,
Il y a le nom
ou
le titre en
tout cas.
Simon Vernin.
Oui. Alors, si vous êtes pressé et vous arrivez à le retrouver très bien, et en plus, nous, on va le publier. Voilà. Et Simon Vernin est pour un an en Russie, ça, je ne vous cache rien, et il pourra le présenter l'année prochaine. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un ouvrage magistral.
Alors, on a.
Oui. Roger.
Oui. Moi, j'interviendrai, c'est plus pour. Le rapport de Michel, il y a 68. C'est vrai que c'est un peu comment on ressent dans la classe ouvrière. Quoi, hein. Et puis, l'aspect qui a été soulevé tout à l'heure là, par mon copain, là, la jeunesse, là, comment on réagit. Moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ça. Enfin, il ne faut pas se tromper sur cette question. Dans la classe ouvrière, ça nous déjà depuis. Il a expliqué, les mineurs, en 67, il y a des grèves qui commençaient à être costauds, et chez les métallos, notamment Renault avec sa place qu'elle avait, etc., pour nous, c'était nouveau parce qu'on était un peu cadenassé à partir d'un accord de 1955 qui, globalement, avait amené des choses importantes, mais en même temps, il nous avait enquillé des taux d'anti-grève qui faisaient comme tu grèves, une vraie grève d'une journée qui permet globalement sur tes primes, qui était à peu près le 13e mois à l'époque, au bout de 3 jours de grève, t'avais plus de 13e mois. Donc, ça a été quand c'était pas, on n'était pas au niveau, quoi, hein, bon, faut frapper, la guerre d'Algérie, tout ça,
c'est bien, hein.
Et donc, si vous voulez, voilà comment ça part. Alors, sur la jeunesse, je parle pas des jeunes, j'ai passé sur 33 jours, 34 nuits que j'ai passé dans cette tour et autour, si vous voulez, on était envahis par la jeunesse. Vous vous rendez compte que Billancourt, on décide d'occuper à 5 heures l'après-midi avec 3000 mecs, hein, en disant bah, rendez-vous demain pour voir ce qu'on fera, mais là on couche là cette nuit, il fallait mettre des tickets de grève en place sur une tôle de 98 hectares, on y avait une quinzaine de force pour rentrer là-dedans, enfin, etc. Et on voit débarquer à partir de 9h des hordes de jeunes qui arrivaient du quartier latin, qui étaient guidés. Nous, à Billancourt, on nous met pas n'importe qui pour s'occuper de tous ces jeunes-là. Peut-être au Bajon. Hein. Et à Flins, c'était un petit peu plus compliqué. Jetmar, l'économie qui part partout. Il est en train de rêver, la jeunesse. Là. Vous comprenez? C'est jeune, mais c'est pas combien, c'est massif. C'est normal, c'est quand on est jeune. Moi, j'aurais eu 20 ans. De toute façon, peut-être que j'avais eu 20 ans, j'aurais peut-être été avec eux.
Bon, oui,
vous voulez. Et la finalité de ce mouvement, et les forces qui sont en présence tout de suite, c'est qui dirige le mouvement?
Bien sûr,
la classe ouvrière, elle passe à la trappe, et est-ce que le courant social-démocrate est installé dans la jeunesse?
Bien sûr.
Est-ce que c'est lui? Moi, je me rappelle, si vous voulez, la manif du 13 mai. Alors en plus, comme on avait toujours la charge de se mettre dans des coins un peu définis qu'il fallait tamponner, hein, avec nos forgerons et nos combats, si vous voulez, la manif du 13 mai, rassemblement à la République. Comme Benzic et puis les autres, leur bande, ils défendent le boulevard de l'Atlantin. Ils partent de la gare de l'Est. Je vous assure que c'est un trap à bouteille sec pour dire, vous rentrez dans la manif si vous voulez, mais la tête de la manif, c'est la CGT. C'est la CGT qui lance le mouvement le samedi, l'affaire de la Régal du Sac. Donc, vous mettez dans la manif, à un endroit, mais il ne faut pas convaincre. Ah, alors, si vous voulez, donc, je me rappelle comment. Allez, c'est révérend. La jeunesse, la classe ouvrière qu'elle a. Et c'est Félix qui conduit le mouvement. Non, il en fait quelques personnes. Ça avait été remarqué que, si vous voulez, le cortège devant, il y avait Félix et comme lui. Il était allé à quoi faire avec quelques mains, et pourtant, vous voyez, c'est, on retrouve pas tout le long. C'est qui conduit le mouvement en 68, quelle place pour la classe ouvrière. Voilà, c'est ça.
Tout à fait.
Et avec, après, c'est le corollaire, l'anti-VGT et l'anti-communisme. Comment on pourra mesurer après que le mouvement l'a développé un mouvement? L'opération contre quand ils voient qu'on tient la classe, ils disent,
c'est ce que vous
Globalement, on commence à nous opposer le qualitatif au quantitatif, notamment la CFDT. Vous avez Mauvaise France qui dit rapidement, ce qui demande, là, c'est pas possible, la France ne pourra jamais digérer ça. Quand la délégation de la CGT rencontre ceux qui finalement sont charpentés et qui discutent la CGT à un moment donné à voir, parce qu'on leur dit, maintenant, on peut trouver tout au niveau de l'organisation. Si on arrive au pouvoir, on ne pourra pas satisfaire tout ça. C'était ça, et c'est ce qui nous retrimballe en ce moment, qui sont en train de nous ressortir. Que globalement, nous, les retraités, on a des retraites en or parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il était possible de faire. Hein, bon, etc. Alors ça, si vous voulez, moi, c'est mon appréciation sur un peu le mouvement. Voilà, moi, c'est clair, c'est qui dirige. À la fin, ils ont encore que. C'est compliqué. Michel l'a dit, on va aux élections au mois de juin 68, c'est pas brillant. Bon. C'est d'ailleurs une chose qui, dans ma tête, du point de vue de l'analyse, n'est pas encore réglée, parce que le Parti communiste ne pouvait plus payer tout, c'est permanent, on en a récupéré quelques femmes.
Donc, peut-être Michel va répondre.
Oui, non, je ne réponds pas, mais je vais ajouter juste une chose, je n'en ai pas parlé là, mais je crois que tu poses une question tout à fait fondamentale, c'est qui dirige le mouvement, ça c'est clair, mais... Georges Seydy, qui était en charge de responsabilité importante à la CGT, raconte la chose suivante. La CGT rencontre Mitterrand. Et Mitterrand le dit à la CGT, ça a été démenti par personne. Il dit à la CGT, surtout, il ne faut pas négocier à Grenelle, parce que sinon, vous favorisez le pouvoir. Mais par contre, il y a une chose qui est derrière, très clairement dite par Mitterrand, c'est tout ce que vous demandez, on ne pourra pas le satisfaire si on a le pouvoir. Tout était dit. Hein. Non, mais c'est plus à toi maintenant.
Si vous voulez, ça, vous faites période pour moi tout au moins. Et quelques autres années, à la reste, c'est compliqué. Juin 68, c'est après un tel succès, après une telle lustre revendicative. C'est un succès quand même, parce que l'affaire 68, on ramasse tout de suite, mais on en ramasse pendant 10 ans. Sur les luttes, les OS, rappelez-vous,
etc. Bon, ça va. Allez, on continue.
Alors,
là,
un mot, parce que
qui tient
du temps. Je l'ai vu aborder plus tard. C'est un collègue de la CGT il y a pas longtemps, qui était prêt par Alvar pour essayer d'en finir avec l'équipe qui était chez Renault en 1938. Très, je voulais cette affaire, qui fallait, et que ça a été amené par un grand dans le débat. C'est notre compagne, un ancien dirigeant du Parti communiste. Et si vous voulez, c'est. On se paye dans cette période, plus personne n'en parle, et qui sait si ça peut être lourd, et pas qu'en France. C'est Braille.
Oui.
C'est Dubček, ça commence en février. Dubček qui vire la Bosnie, machin, etc. Et le 20 août, c'est les chars qui rentrent à Prague, et tout ça, c'est pas dans le mouvement, c'est pas rien. Il fallait le gérer. Il y en a même qui me disent que Balzac, il est mort un peu plus tôt parce que tellement ça a vu poser lourd sur ses épaules cette affaire. Parce que pendant que ça se termine, vous voulez, pendant 12 ans après, il n'y a plus de contact entre le PCUS et le PCUS.
On va s'arrêter là.
Oui, c'est très juste. Janine, ensuite on a deux autres interventions, trois même.
Je voudrais revenir sur le débat qui a amorcé Victor sur la politique, la différence entre anti-PCF, anti-VSF et anti-communiste. Je crois qu'il y a deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut replacer cette question dans le contexte d'une société capitaliste. C'est-à-dire que les capitalistes, les médias, vont tout faire pour que, à partir de critiques de l'URSS, à partir de critiques du PCS, ça conduise à la mentalité. C'est pour ça que les deux, même historiquement, si on approfondit les choses, les deux sont très similaires. Alors, je vais lire un petit peu de la culture, mais je vois déjà un petit peu. Alors, la deuxième chose, je vais dire d'où je le dis. Je n'étais en 68 pas au PCF. Je fricotais plutôt avec les socialistes et avec les maoïstes. C'est après que j'ai dit. J'étais à la fois étudiante et à la fois salariée. Ouais. Donc, j'étais à Sancier. Donc, à Sancier, il y avait. Pour moi, c'était des gens. Excusez-moi, un salarié primaire, pour moi, c'était des gens qui n'arrêtaient pas de parler. Voilà. Les étudiants avec qui je bossais, qui par ailleurs étaient dans le mouvement de 68, j'avais, pour moi, rien à voir avec eux. Et je crois qu'on était beaucoup dans, comme ça. Parce qu'il faut voir quand même la différence entre les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants de l'époque, c'est qu'à l'époque, les étudiants salariés, ça n'existait pas. À l'époque, les étudiants, c'était des gens qui venaient des milieux très élevés, très. Ça n'avait rien à voir avec notre genre. Bon, c'est la première chose que je vous dis. Je crois que, plus profondément, il y a des débats qui n'ont jamais été menés au fond. Et en particulier, j'ai été longtemps en PCF, hein. Je mets la responsabilité du PCF là-dedans. Il y a des débats qui n'ont jamais été menés au fond, c'est par exemple sur l'autogestion. L'autogestion, c'était le miroir aux amulettes que ont avancé les sociodémocrates, la CFDT et un certain nombre d'organismes de ce genre, y compris d'ailleurs certains socialistes. C'est ce qui est quand même assez bizarre. Il aurait fallu, par rapport à ça, poser la question du pouvoir politique. Il n'y a pas d'autogestion possible dans un système qui est capitaliste. Il fallait poser cette question du pouvoir politique. Or, cette question, elle n'a pas été posée. Non seulement elle n'a pas été posée, mais je crois que c'est 75-76, j'étais déjà au dans en douce, le PC a abandonné la dictature du prolétariat. Donc ça a du sens. Et je crois que c'est ça qu'il faut approfondir. C'est ça dont il faut parler. Pas des détails sur. Alors, il y a l'autogestion, c'est le premier. Mais il y a aussi sur les salaires. Vous vous rappelez que c'est un grand. un grand défaut que tout le monde trouve à la CGT et au PCF, comment les salariés se battent sur les salaires. Mais enfin, quand même, il faut avoir des très très gros salaires pour pouvoir dire ça. Et en particulier en 68. En 68, c'était des bidonvilles. En 68, la plupart des copains, ils habitaient à l'hôtel. Ils venaient de province parce qu'il y avait du boulot à Paris et ils habitaient à l'hôtel. Etc. Donc, ne pas parler des salaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le jeu des capitalistes. Et là aussi, hein, on retrouve les sociodémocrates, la CGT, etc. etc. Alors, après ça, la troisième question qu'il faut poser, c'est comment le capitalisme a réussi à retourner la situation dans son sens? Ben, ils ont développé le système bancaire. À partir de ce moment-là, les salariés ont pu emprunter. À quel prix on est emprunté? Et à quel prix aujourd'hui on est propriétaire, hein? C'est ces questions-là qu'il faut poser, me semble-t-il.
Merci. Alors, j'ai trois autres interventions. La camarade derrière Victor, ensuite.
Donc, je voulais simplement dire que je connais le théâtre de la Sorbonne à l'époque. Hein, j'étais étudiante, et au théâtre de la Sorbonne, on projetait avec ma bicyclette d'aller chercher des films. Je connaissais bien le monde du cinéma, etc. Et j'arrivais à me mettre en place. Mais il y a une chose que vous avez là oublié complètement, c'est que, bon, on parle du communisme, d'accord, à l'époque, vous ouvriez François, Laurent, il y avait 20 pages de propositions d'emploi. Or, en fait, il fallait tout bouger socialement, il y avait des choses. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste était 20% de l'opposition. C'était un parti très important. Bon. Or, c'est pas du tout pour ça qu'il y a eu 1968. Moi, j'ai vu quand même que le Mandit a été mis en avant par Richard Fleur, par la CIA. C'est la CIA qui a payé la première campagne électorale de François Mitterrand. Il fallait faire tomber De Gaulle. De Gaulle qui osait accepter d'avoir des communistes en France, avec un parti important qui avait respecté les résistants communistes. J'ai dîné un soir avec, c'était au bord de l'Euphrate, avec le traducteur de Staline à Téhéran. J'étais avec Dimitri Chamar à l'époque. Et moi, j'en prenais pas dans mon dire du bien de Staline. Or, à un moment donné, le représentant de Roosevelt qui dit à Staline, mais enfin, pourquoi vous ne laissez pas les gens parler, regardez, nous, on se laisse dire, etc. Et Staline dit, écoutez, tous les matins, je me demande si je vais être encore en vie ce soir. Parce que c'est une obsession, et certains qu'au niveau politique, je fais des miracles au point de vue matin, mais il y a une chose. Je sais que vous avez fait 60 tentatives d'assassinat personnel. Et le représentant de Roosevelt qui dit non, 55.
Voilà. Bon, bah, merci beaucoup.
Ce que je voudrais dire, c'est que vous oubliez le contexte de l'époque. De Gaulle avait été au Cambodge dire qu'il ne fallait pas.
Oui, mais en fait, notre thème, c'est démythifier 68. Merci, mais on risque là de refaire l'histoire du monde parce que le thème est. On a. D'accord. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec le complot, mais Merci. Alors, on a deux autres. Voilà. Choisissez qui veut commencer. Voilà. Allez-y. S'il vous plaît, on écoute parce que sinon.
Au milieu des années 60, je travaillais à Clarté, le journal de l'Union des étudiants communistes. Et j'ai pu voir à pied d'œuvre comment s'est introduite donc cette nouvelle couche d'étudiants qui par la suite devait contenir le leadership de tout le mouvement de façon complètement droitière et même archi-droitière. Donc, c'est le Parti communiste qui a fait changer cette dynamique, donc, avec la condition d'être autonome, et de quelle façon on peut être autonome financièrement, j'entends, si ce n'est en démarchant les agences de publicité. Donc, c'est faire entrer le coup dans l'affaire publique, même si on ne peut pas faire autrement. Et j'ai eu à l'œuvre, donc, très rapidement, toute la, comment les appeler autrement, la clique de gens donc, qui se sont emparés de la direction de ce journal pour l'infléchir en impulsion de la ligne de façon délibérément anticommuniste, c'est ce qu'on appelait les Italiens à l'époque. Et je ne vais pas entrer dans le détail, c'est demandé à des livres d'ailleurs là-dessus, mais que sont-ils devenus par la suite? Ils sont devenus qui directeur d'agence de pub, directeur modérateur en chef de quotidien, conseiller du prince, ministre, haut fonctionnaire, etc. Vous voyez donc, peut-être pas au départ, mais au fur et à mesure que les années ont passé, ils ont bien vu de quel côté leur tartine était beurrée. Et donc, l'idéologie, parce qu'on ne peut pas dire autrement, qui perçait dans ce nouveau clarté était absolument anticommuniste et anti-marxiste. Il y avait une apologie absolument raciste de l'avant-gardisme. Alors je distingue bien avant-gardisme de modernisme à la suite de la lecture du livre formidable de Frédéric Sebrelli, donc édité par Delga, donc. J'engage vraiment tout le monde à lire, c'est un livre absolument remarquable, mais c'est la différence dans la véritable, entre la véritable modernité et l'avant-gardisme, qui est disons, le plus de la phrase. Donc, voilà.
Merci.
Mais ça a influé, une dernière chose, oui. ça a influé toute cette ligne-là qui a été dominante dans l'idéologie de la jeunesse, ça a pénétré le Parti communiste lui-même, ça a pénétré la CGT, il y aurait d'innombrables exemples. Par la suite, moi, je suis entré à la SNECMA, moteur d'avion. À l'époque, il y avait le PCF et la CGT étaient tout puissants, tout puissants. Vraiment, il y avait quelque chose comme 5, 6, 7 cellules du parti, donc à la SNECMA, sur 4500 salariés. C'était extraordinaire. Je rencontre au stand de la fête de Lima au stand de la SNECMA, je rencontre un gars qui discute et il a répondu de très de façon absolument piteuse, tragique, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Quand je lui ai demandé combien y a-t-il de communisme maintenant, 3. Et donc il y a eu une dégringolade absolument terrible au plan idéologique sur lequel il faut se rendre.
Merci. Merci beaucoup. Et donc, voilà.
Merci pour votre belle intervention. On voit bien la démystification de 1968. Il y a, à travers cette évolution fantastique et plutôt passion, des luttes de la catégorie, hein, c'est très, très clair. Mais moi, j'ai juste une simple question. Alors là, à Vichy, j'ai été un peu fascinée par cette idée selon laquelle le fascisme a glissé sur justement l'âme du peuple italien, comme vous l'avez dit, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le post-fascisme qui a ravagé, vous dites, vraiment la culture.
Les néo-capitalismes, d'après Pasolini, voilà.
Voilà, alors c'est une question, est-ce le néo-capitalisme maintenant est mondialisé, on a ça partout, et qui joue surtout dans le niveau urbain et dans la jeunesse, est-ce que vous avez le sentiment que c'est là qu'il y a eu, si vous voulez, un véritable passage qui maintenant fait ses preuves de façon...
Alors je vais donner une réponse qui est fondée sur ce que je sais de Pasolini, mais c'est assez clair. Dans un article ou une interview, je ne sais plus laquelle, mais il précise que, à la différence d'autres grands pays européens, hein, il cite la France, l'Angleterre, etc., et il n'y a pas eu en Italie de révolution bourgeoise nationale, pas eu de guerre de religion, il n'y a pas eu de grand chambardement qui a créé en fait quelque part une société fondée sur un besoin de vivre en paix, disons, après une grosse crise.
Et il dit pour les Italiens, donc la première grande tempête qui va fonder, qui va unifier le peuple italien, c'est peut-être maintenant ce néocapitalisme. C'est-à-dire, ça n'a pas été le fascisme, malgré sa rhétorique nationaliste, etc., parce que ça n'a pas touché l'âme du peuple. Ça a été pour lui un phénomène, disons, de surface, de classe dirigeante. Ça n'a pas changé l'âme paysanne profonde qui existait dans toutes les régions italiennes. Donc, il dit c'est les années 60-70, c'est ça, le grand changement est là. Et il disait aussi, d'une manière peut-être prophétique, il a dit ce grand changement pour l'instant ne s'est pas incarné en un visage. C'est un pouvoir qui n'a pas de visage, mais finalement ça arrivera. Alors après, à l'époque de Berlusconi, les gens disaient le voilà, parce que c'est un pouvoir qui s'est fondé sur les télévisions, etc. Donc on a pensé, on a cru trouver dans cette sorte de prophétie de Pasolini la vérité dans le personnage de Berlusconi. À ce titre-là, ce changement de société impulsé par le néo-capitalisme, si on veut, peut être paradigmatique des transformations accélérées des dernières années. Mais ça, je vous laisse disons l'appréciation. Je rappellerai peut-être, puisque j'ai la parole, je dis juste deux choses par rapport au contexte international. Je ne parle pas que de la CIA, mais on a plusieurs fois dit que c'est le contexte de la guerre froide. Quand on dit guerre froide, c'est la guerre mondiale sur l'échiquier international, avec des interventions CIA ou autre dans les différents pays. Donc ça c'est un aspect qu'on a pris en compte. Par contre, voilà, on ne peut pas refaire l'histoire du monde sinon. Et pour revenir à la question que posait Aymeric, pourquoi faut-il une âme de poète pour faire ces choses? Alors j'aimerais bien répondre par une citation qui m'a été suggérée par un ami poète. C'est la fin du poème Le Voyage de Baudelaire, qui pour moi, qui suis chercheur, on est plusieurs, c'est une très belle définition de la recherche scientifique. Voilà, au fond de l'inconnu, de l'inconnu. L'inconnu, c'est ce qu'un homme scientifique recherche, c'est l'inconnu, pour trouver du nouveau. C'est-à-dire que ce type de poésie est à la rencontre, enfin, comment dirais-je, est au même point où se trouve le chercheur scientifique qui cherche des nouvelles choses. Et quand je dis chercher du nouveau, je sous-entends tout d'abord, il n'y a pas de principe d'autorité. C'est-à-dire, on essaie de regarder la réalité sans les filtres intellectuels donnés par les autorités, c'est-à-dire ceux qui ont pensé avant nous. Enfin, évidemment, on doit les connaître, mais on essaie d'analyser avec des instruments le plus possible pointus, on va dire. Alors oui,
mais il y a quand même une lutte antifasciste en Italie. C'est pour ça peut-être que Pasolini dit que le fascisme n'a fait que glisser.
Non, c'est pas la question de la lutte politique. Pasolini a dit que le fascisme n'a pas entamé le cœur des classes populaires italiennes comme l'a entamé le néo-capitalisme.
Oui, la société de consommation, absolument. Productivisme et consumérisme.
Si on veut, c'est ça, mais pour lui, c'était pas seulement la consommation, parce que la consommation, c'est bien gentil, mais si on a des salaires très bas, on peut pas consommer. Et Kluskar nous le rappelle. C'est l'homologation imposée d'en haut. L'imposition de mode de vie, alors après chaque classe elle a fait selon les moyens qu'on lui a accordés, mais c'est ça pour lui qui a totalement changé ce qu'elle appelle l'âme du peuple italien. Voilà. Il y avait une autre remarque ensuite. Ouais.
Oui. Vous allez rapidement. Après ce qu'a dit Michel, bon, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il a dit sur le PC, parce que les élections de 1969, aux élections de 1969, Jacques Bouteau avait quand même 25% des voix.
Non, 21, 21.
Il a eu 21% des voix, je crois, au maximum. Ça, mais...
Bon, ça c'est quand même assez bon. Deuxièmement, au sujet de Garaudy, je connais une philosophe qui a quand même lu les papiers de Garaudy à fond. Donc il m'a dit qu'elle avait été assez étonnée qu'on ait taxé d'antisémite et ainsi de suite. Elle m'a dit que c'était tout ça parce qu'elle m'a dit que je n'ai rien trouvé.
Les mythes fondateurs de la politique israélienne n'est pas un livre antisémite, c'est un livre négationniste.
Oui, mais elle
mais c'est
elle,
pas un livre antisémite, c'est vrai.
Elle m'a dit que j'étais assez étonné de ce qu'on a vu. Bon,
ah oui, c'est un livre négationniste. Il y a un problème de logique formelle, si vous voulez.
Et la troisième, c'était au sujet de ce que vous dites à propos de Pasolini sur l'Italie. C'est exactement le même argument qu'on utilise pour expliquer la fondation des États-Unis et ensuite le fait que les gens ne soient pas, enfin surtout la classe ouvrière, ne soient pas aussi combatifs qu'en Europe et qu'elle vive encore dans certains mythes, j'allais dire fondateurs. Mais c'est exactement le même argument. Alors c'est ça qui m'étonne beaucoup. Comment on peut. Ce sont des situations totalement différentes. Justement, je rejoins le fait que la lutte contre le fascisme est très importante. Je ne sais pas, il n'y a qu'à voir les films italiens.
Oui, mais en fait, Pasolini ne parlait pas de lutte politique. Il savait très bien ce que c'était, parce qu'il était antifasciste lui-même, il avait vécu la guerre, son frère est mort en partisan, etc. Donc il ne parlait pas de cet aspect-là. Il parlait de la vie quotidienne, en fait.
Et puis, voilà. 20 ans, c'est le 21e fasciste. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il y avait un écrasement de la classe ouvrière. Mais ils étaient, malgré ça, ils n'ont pas réussi à coloniser jusqu'aux esprits.
Voilà. Parce que ce que Pasolini mettait en avant,
c'est une formule, si vous voulez.
La civilisation paysanne qui va de la pointe du Maroc jusqu'à l'orée de Sibérie, c'est une civilisation qui existe depuis 10 000 ans. Et qui a son, malgré la différence de langue, de religion, de langage, a sa manière d'être propre. Et lui, il voyait cette longue durée d'une civilisation paysanne, internationale, si vous voulez, et la nationalisation autoritaire, oppressive, lancée par ce néo-capitalisme, qui a changé la vie quotidienne. C'est sa vision très puissante des choses, à laquelle on peut penser ou pas, mais ce n'est pas le terrain de la lutte politique. Après ça, il a analysé, mais il y a une pléthore d'articles, il a analysé aussi les manipulations du front extrême droite, antifasciste, enfin, il a été vraiment un témoin très attentif au quotidien dans ses articles. Mais ce dont je parlais, c'est beaucoup plus profond que la lutte politique pour le pouvoir. Et quand il dit que c'était pire que le fascisme, évidemment, c'est une manière de souligner la gravité de la chose. Parce qu'évidemment, parler du fascisme en Italie, c'est parler presque du mal absolu. Hein. Donc, il a insisté là-dessus pour montrer que le néo-capitalisme est encore plus grave et affecte encore plus profondément. Voilà.
Si je peux me permettre juste une seconde, faut lire le passage du manifeste du Parti communiste sur la bourgeoisie, la classe
révolutionnaire.
Qui transforme les sociétés en profondeur par l'artillerie lourde des prix bas. Oui. Les prix bas, c'est-à-dire la consommation, même si petite soit-elle.
Oui, tout à fait. Alors, on a le camarade et puis Victor qui est de moi.
Si on peut essayer de faire une analyse politique de 68, à peine évoqué, on ne peut pas la faire, c'est un avis politique, en maintenant la confusion qui a été produite entre le Parti communiste et le communisme. Parce que depuis 1956, cette organisation avait rompu avec, notamment, c'est encore évoqué sur le rapport Rouchef et les mensonges sur le rapport Rouchef, c'est une chose, mais surtout, ce qu'il avait, même s'il avait du vocabulaire marxiste, il avait perdu de vue l'essentiel, c'est la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière. Or, on peut remonter pourtant une période héroïque du PCF, c'est en 1942, dans les accords avec les gaullistes du programme du CNR. Et c'est vrai que là, c'est une étape essentielle, parce que dans cette époque du fascisme, mettre en place le programme du CNR, c'est indispensable. Et c'est vrai que c'est un accord avec la bourgeoisie et avec De Gaulle qu'on arrive à le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après la guerre, ce programme du CNR, il continue à exister. Et aujourd'hui encore, il y a des gens, et non les moindres, qui se revendiquent de ça, comme s'il fallait continuer à pérenniser, 70 ans après, le programme du CNR, alors que la classe ouvrière, son objectif, c'est de prendre le pouvoir politique, et non pas de continuer à cohabiter. Alors, chier sur le caboulard pétainiste Mitterrand, ça c'est facile, c'est une ordure depuis 1934, il n'y a pas de doute là-dessus, mais enfin, j'en connais un certain nombre qui ont appelé à voter pour lui en 81, et quand on refusait de voter pour l'assassin du peuple algérien, qu'il était, on se faisait passer la gueule à Billancourt. Je ne dirais rien, Roger, tu le sais très bien. La deuxième chose, c'est que quand on a mis de côté cette analyse essentielle, qui est l'analyse de la différence entre le Parti communiste et le communisme, parce qu'eux avaient rompu, et alors bien sûr, ils vont authentifier cette rupture définitive au Congrès quand ils abandonnent l'internationalisme prolétarien et la dictature du prolétariat. Mais la coupe est pleine, et à ce moment-là, c'est vrai que quand on rentre dans un programme électoral de plein pied avec Mitterrand, on ne peut plus maintenir les aspects théoriques les plus puants. Et la grande banderole de l'UMA, on retire le marteau et la faucille parce que c'est vraiment trop crade pour avoir un programme électoral avec Mitterrand. Maintenant, c'est vrai qu'en 68, il n'y a pas que le PCF, il y a aussi tout un tas de petits groupuscules, Fils notamment, mais aussi toute la bande du PSU qui est d'une certaine manière révélateur de la lutte des jeunes qui veulent rompre avec cette ambiance pourrie qu'était le gaullisme, mais aussi parce que la guerre du Vietnam s'est évoquée, parce que la montée du maoïsme et de la révolution culturelle prolétarienne en Chine, ça veut faire bouger les choses, mais ce qui va manquer, et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est que si on n'a pas un parti communiste, les révoltes ouvrières, elles sont condamnées à l'échec. Ouais. 1871, la Commune de Paris l'avait prouvé, Marx l'avait analysé, les Allemands, en 1918-1919, le prouvent encore une fois, parce que Karl-Liebknecht, Rosa Luxembourg, ne pèse pas bien lourd quand il n'y a pas de parti, il n'y a pas de révolution. Ouais. Et c'est vrai, c'est la seule leçon acquise, mais qui est notre le point d'achoppement aujourd'hui, donc on pourra continuer à user le soleil contre Mélenchon et toute cette bande de zozo, mais s'il n'y en a pas de parti, on n'aura rien, on va continuer ensemble dans la gueule, merci, pendant des certains nombre de décennies.
Merci.
Et j'encourage juste un mot. Les éditions d'Elia a réédité un petit fascicule qui était sorti après 68 par probablement un pseudo, dénommé Nicolas Rivière, qui avait écrit un petit fascicule, 68 ou 120 ans après, et qui reste encore l'analyse la plus politique de la situation de 68.
C'est cher confrère. Oui, c'est cher confrère. Voilà. Alors, Victor va conclure la. Puisqu'on doit partir dans 5 minutes exactes. Donc, Victor conclut la notre.
Oui, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui ont été dites. Il y en a beaucoup, il y aurait beaucoup à dire. Mais par rapport notamment à ce que vous avez dit, et d'autres. Donc c'est vrai que le PCF n'a jamais posé la question du pouvoir. Ça c'est quand même bien de le dire. Il y a un problème dans une situation qui était objectivement révolutionnaire. Que fait le PCF il y a les usines qui sont occupées. On peut, et d'ailleurs il y a des forces politiques beaucoup moins importantes que le PCF en France à ce moment-là, qui en tire la conclusion, on va faire des revendications, on va défendre des revendications, comme l'ouverture des lignes de compte, comme le veto ouvrier, et on va articuler ça avec la question du pouvoir, pour avancer dans cette direction-là, dans la direction de la révolution communiste. Après, par rapport à ce que disait Roger sur... il fallait que ce soit Ségui en tête. Bon, on a les mêmes discussions aujourd'hui, hein. Est-ce que ce soit la CGT en tête le 1er mai ou pas? Donc, c'est des questions intéressantes. Pour moi, Ségui, il ne représente pas les intérêts de la classe ouvrière en France, en fait. Avec tout le respect, moi je suis militant de la CGT. Avec tout le respect que j'ai pour les militants qui font le boulot de classe sur le terrain,
la direction de la FDP à la, au bout d'un mois, est-ce qu'il veut la fin de la retraite, au lieu d'avoir essayé de d'amplifier le mouvement, etc. Donc, s'il a pensé qu'il y a un parti révolutionnaire, pourquoi la CGT, par exemple, elle aurait pu essayer de coordonner les différentes grèves, de leur permettre d'exprimer leurs propres revendications, de diriger elles-mêmes leur mouvement?
Alors, le débat peut avoir lieu, mais en dehors de cette table, il faut qu'on quitte les lieux à 8 heures. Voilà.
Attendez, une seconde. Bien, écoutez, nous sommes. Anne-Marie, s'il te plaît. Nous sommes, vous le savez, contraints par l'horaire à 20 heures. Si vous tenez à ce qu'on continue à faire des conférences et des débats aussi animés, il y a un minimum de règles. Bon, il y a cette règle-là. Alors, on n'y dérogera pas. On appellera les forces de police si c'est nécessaire. En tout cas, non. Attendez, si tout le monde parle, moi je peux pas.
Alors, formule de clôture par Michel, s'il vous plaît. On écoute juste une seconde et après on pourra sortir.
Alors, si vous m'accordez une seconde encore, la prochaine fois, c'est le 11 octobre. Alors, je ne sais pas, 11 octobre, c'est un jeudi, ensuite le 22 novembre, mais vous recevrez toutes les informations. Moi, ce que je vous propose, parce que bon, il y a eu un débat très important, très intéressant, on n'a pas clos, hein, c'est absolument évident. Et dans le principe de notre travail, c'est effectivement que s'expriment librement, tranquillement, les opinions, les témoignages qui nous permettent d'avancer ensemble. Alors, on peut avoir des divergences, on en a, hein, et puis si on n'en avait pas, on en créera, mais en tout cas, soyons clairs, il n'y a pas de ligne officielle. Moi, ce que j'ai dit, c'est Michel Gruzel. Voilà. Il se trouve que Roger est d'accord avec moi, mais bon, ça arrive de temps en temps seulement. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine, donc. Et si vous voulez.